En direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute.
Merci beaucoup. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup d'être là. Là, ce soir, on enregistre 3 podcasts. Pour le monde qui ont downloadé ça, ça va être quand même juste un podcast par semaine. Mais là, moi, tout le monde, j'ai remarqué que on dirait que j'ai comme une rumeur où le monde pense que j'ai un problème d'alcool. Puis là, je voyais le monde, tout le monde sur Facebook, t'es comme « Chris, Mike va être scrap le troisième show. Tabarnak, asti. » Puis pas de vrai, des fois, j'ai de la misère à me rendre jusqu'au deuxième. Fait que là, 3, j'étais stressé. Puis là, je me disais « Qu'est-ce que je fais, asti? Je fais-tu... Je bois pas. » Non. Fais-tu, tu sais, comme un drink, un pot de drink. Et finalement, j'ai trouvé la solution avec, je vais faire comme les vaccins. Tu sais, quand tu te fais vacciner, là, ils te donnent un peu de la maladie avant. Puis après, quand tu pognes la vraie maladie, ton corps fait « mon collier, je l'ai déjà eu », ton corps est capable de se défendre. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Moi, toute la journée, j'ai bu un peu, je suis insoulable, c'est... Je viens de résoudre le mystère de l'alcoolisme. Et... Non, je suis très content d'avoir ce soir mes invités. Il y en a un, c'est la première fois qu'il fait le podcast. Il y a l'autre, il l'a fait, c'est sa troisième fois. Je suis très content de les avoir, mesdames et messieurs. Voici François Léveillé et Sylvain Larocque. Comment ça va, Sylvain? Merci d'être là aussi.
Ben, écoute, ça fait plaisir.
Là, vous autres, vous vous connaissez quand même bien. Vous avez travaillé ensemble pas mal.
Ben, c'est François qui m'a découvert, moi.
OK.
Oui, écoute, ça fait longtemps, là. C'était en 94, 93.
Dans ces jours-là.
Ouais, moi, j'étais... Écoute, ce jour-là, je te jure, c'est vrai, là. Ce jour-là, j'avais pas beaucoup de choses. Ça commençait mon affaire, puis tu sais, j'en vivais pas encore. Puis cet après-midi-là, j'ai réussi à avoir un show Café Campus à l'époque. Quand il était sur
les
Queen
lundis
Mary.
Et
lundi juste pour rire. J'ai réussi à avoir un 10 minutes, là. Et dans l'après-midi, je venais de m'acheter le nouvel album de U2, Actum Baby. Ça fait longtemps, Chris, là. Et j'ai écouté One toute l'après-midi en me disant, OK, si à soir ça marche pas, là, j'arrête.
OK.
J'arrête.
Ah ouais,
j'arrête. T'es rendu là. J'avais 2 bacs. J'ai une bonne job sur IBM. Je me dis, Chris, ça m'a donné. Je vais faire comme ça. Et là, j'arrive au show le soir. J'ouvrais pour Michael Rancourt. Oui, c'est vrai. Il était là au Café Campus. Et puis, dans la salle, il y avait François qui faisait sa mise en scène. Il y avait Stéphane Ferland qui allait devenir mon premier gérant. Il y avait aussi Jean-Claude L'Espérance qui était là. Puis, il y avait le directeur des programmes de CKMF à l'époque, maintenant Radio Énergie. Et j'ai eu un standing ovation.
Oh, en 10 minutes?
En 10 minutes.
Chris, ça arrivait jamais.
Ça arrivait jamais.
Lundi.
Mais là,
ça coûtait cher en sacrement.
Mais tous ces gens-là sont venus voir, me proposer de travailler avec eux autres, dont François. Il m'a dit, hey, tu pourrais m'aider avec mes textes. Je t'aiderai avec la mise en scène, tout ça. Puis depuis ce temps-là, on est amis puis on travaille ensemble.
OK. Mais
avant ça, il y avait l'École nationale de l'humour où je passais les auditions. J'avais découvert Sylvain Larocque. Écoute, il y avait des cheveux dans ce temps-là. Ça fait longtemps, sacrement. Ouais. Puis, honnêtement, là, il était tellement différent des autres. Parce que, tu sais, on passait des auditions, on en voyait passer. Il y en a un, entre autres, qui m'avait fait rire parce qu'il se pouvait pas. Parce que tout le monde voulait faire de l'humour. Tout le monde va encore faire de l'humour. Des fois, on a l'impression. Puis, il y en a un qui est arrivé, il dit, j'ai un numéro. Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, ben, je vends des vêtements, tu sais. Je dis, OK, fais ton numéro. Il dit, OK. Ben, là, c'est un client qui rentre. Puis, il dit, je vais essayer ce chandail-là. Je dis, OK. Là, il prend le chandail, puis, il met le chandail. Il dit, OK, je vais essayer les pantalons que là. OK. Fait qu'il met les pantalons. Tu essayes des pantalons. Tu dis, ah non, ça me fait pas, je vais y retourner. C'était ça son numéro.
Il y avait rien. Il y avait fuck all.
Je te jure. Non, mais il y en avait des weird. Puis à un moment donné, Sylvain arrive, puis il fait un numéro, puis j'ai fait comme, wow. Là, il se passe de quoi? Ce gars-là écrivait comme personne d'autre à l'École nationale de l'humour à l'époque écrivait. Puis moi, j'ai, tout de suite, ça a été non. Ça, c'est un gars,
il nous a enseigné la technique à l'École de l'humour, mais il s'est pointé pour 2 shows dans la session.
Ah, j'ai eu ça.
Pour deux cours dans la session, le résultat était
c'est,
pas là.
C'est quoi le cours de technique?
Ben, c'est parce que dans le temps, il y avait des, on travaillait avec des 8-pistes, on travaillait avec du splicing, puis c'était vraiment au début des studios, tu sais, fait que je montrais comment faire du splicing en, tu travaillais en 8-pistes, après ça, tu mettais ça, puis tu coupais, puis t'apprenais à travailler en studio pour la radio, pour la télévision. On travaillait dans le fond. L'idée, c'est que l'humour, t'en fais sur scène, mais t'en fais aussi à TV, t'en fais à radio. Alors, ça t'a donné une idée de toutes les options possibles pour gagner sa vie en faisant ce métier-là.
Est-ce que t'sais? Tu vois que ça a changé, hein,
c'est,
que...
C'est énorme. Hey, ça va faire 25 ans l'an prochain que je fais ça. Mais toi aussi, à peu près.
Ouais, ben moi,
on a commencé en même temps.
Moi, j'ai commencé.
Tu te rappelles du Dog?
Ouais. Moi, j'ai commencé en 93.
Au Dog, il y avait les soirées Godzilla contre le Bonhomme Vert, contre ci, contre ça.
Ouais, il y avait
animé
tout
par
le temps,
Gary Bray puis Pocket.
Ouais.
Tu sortais de la loge, il y avait le pot qui s'ouvrait, un gros nuage de potes sortait de la loge, les animateurs montaient sur scène, pis c'était psychotronique. C'était vraiment, vraiment weird, mais c'était le fun.
Ouais. Il y avait un gars qui s'appelle Mr. Smite qui le faisait des fois. Puis l'autre fois, j'ai c'était comme me semble c'était un mime ou quelque chose. Puis l'autre fois, j'étais sur un site de genre tu pouvais avoir des clowns chez vous puis tout, puis j'ai vu un monsieur Smite que là il fait genre une affaire, c'est Elvis mais en ventriloque.
Fait que c'est drôle, ça.
C'est Elvis, Firmini Elvis. Puis en le voyant, j'ai fait « Asti que ça fait idée de gogeler. » Tu sais, ça
ben
fait...
Oui, c'est sûr.
Ça fait...
C'est clair, t'as pas ça à jeu comme idée. Et moi, cet été, j'étais au feu d'artifice, à Ronde, puis il y a un clown qui animait les enfants, qui est venu me demander un autographe. Puis je me suis dit « Chris, c'est l'apothéose de l'humoriste. » Fuck les Olivier, un clown m'a demandé un autographe. Je capotais, Chris.
C'est bien drôle. Ça doit gâcher la magie pour les jeunes, par exemple, tu sais, de voir le clown arrêter d'être clown.
Oui, c'est
ça. Hey, ouais, c'est la rock.
C'était très drôle. Fait que, ouais, c'est ça. Mais ça fait longtemps qu'on se connaît, puis qu'on est amis, puis qu'on travaille ensemble.
Puis là, c'est ça qui doit être drôle, parce que je réalise, tu sais, nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis quand on s'est rencontrés, nous autres, on était les jeunes, toi, ouais. t'étais le vieux pro, puis là, on est trop vieux.
On t'a rattrapé.
Ouais,
non, mais ça, c'est ce qui est drôle là-dedans, là, c'est qu'à un moment donné, moi, je faisais la première partie de Jean Lapointe. Jean Lapointe était dans 50aine. Puis à un moment donné, on a travaillé ensemble. Puis je disais, c'est drôle parce que la différence d'âge entre toi et moi est la même que j'avais avec Jean Lapointe. Je disais, maintenant, on s'en va là. Maintenant, on va être deux vieux chiens finis. Là. Puis je me souviens, entre autres, la première fois que je t'avais remarqué, t'avais volé un trophée aux Oliviers. C'était ma première mise en scène au Gala des Oliviers.
C'est moi le script éditeur de ce Gala-là aussi.
Puis, c'était Mario Jean qui était sur la scène. Toi, t'es arrivé avec tes cheveux verts. J'ai vu un espèce de gars passer. Il a pogné le trophée. Puis il a dit, non, c'est dans mon tour cette année. Puis il est parti.
C'est Martin Matt qui gagnait Révélation.
Ouais.
Puis t'es venu sur scène, t'avais pris le trophée de ses mains.
Ben, c'est parce que moi, j'avais
vu dans la journée que, tu sais, quand tu fais un Gala des Oliviers, mettons, les places où les gens sont assis, il y a leur nom sur le dossier, sur un papier. Mais il y avait le nom de Mike Ward dans la première mais écrit au stylo feutre, tout croche.
Non, c'est pas moi qui avais écrit le nom.
C'est pas grave, il était au stylo feutre, tout croche pareil.
Ah ouais, c'est vrai?
Les autres étaient tout imprimés en beau fun, le tien, c'était comme...
OK, écrit, je le savais même pas.
Le pire, c'est qu'après le show, t'avais peur que je te pète la gueule, parce que tu pensais que je serais en crise. Au contraire, moi, je suis arrivé après le show, dis yes, man, t'as mis de la vie dans le galon.
Tu m'avais dit, ça, on aurait dû y penser. Mais moi, c'est ça, moi, c'est que j'avais un gag, parce que je faisais un gag sur lequel j'allais dire que j'allais gagner. Puis là, je le rodais le gag. Ben, tu sais, je le faisais dans les bars, puis ça riait. Puis à un moment donné, je faisais, Chris, ça me fait chier que c'est impossible que je le fasse, ce gag-là. Puis là, je disais au monde, fuck off, je vais aller voler le trophée. Puis là, ça applaudissait. Puis, ah, si t'es pas game. Puis tu sais, j'étais jeune. Puis moi, quelqu'un qui me disait j'étais pas game, j'étais comme, va te montrer que je suis game, tabarnak. Fait que ça, ouais. C'était comme un « je vais te montrer que je suis game » à des alcooliques de Rivière-du-Loup. Ouais. Ça, c'est t'as fait la mise en scène des Oliviers combien d'années?
Les deux premiers.
Okay.
Les deux premiers.
Le premier, ça a super bien marché. Le deuxième, on s'est pété à gueule. On a eu des bonnes cotes d'écoute, mais écoute, tout quand tu dis que tu montes un show là, puis tout est contre toi. Tout. C'était l'année que les il y avait des lignes ouvertes à Radio-Canada qui parlaient contre l'humour, qui disaient que l'humour c'était rendu vulgaire.
Ben, c'était l'année, fameux... c'est une des années où les lignes ouvertes parlaient contre.
Écoute, tout était contre nous autres. Puis là, j'arrêtais pas de monter le gars-là, puis je me disais, on va se la péter en tabarnak. Puis je voyais le mur s'en
venir. J'étais là, man, il consommait des Rolaids. C'était un bol de Rolaids avec du lait le matin.
C'est là qu'on a développé une relation par téléphone. Je l'appelais à tout bout de champ, puis il disait, gros chienne à genoux calice, va te péter. Il comprenait pas pourquoi, parce que c'est des soirs qui étaient top.
J'étais à mon bureau, j'écrivais, à un moment donné, de ring, Si chienne ta gueule, va te péter à gueule, si va te fouetter.
Puis je refermais la ligne. Tu comprends?
Il raccrochait. Mais Chris, c'est quoi, ça?
Il voulait juste se défouler.
Il voulait juste se défouler.
T'avais-tu un afficheur? Tu savais-tu au moins que c'était lui?
C'était en 99. On avait des afficheurs, mais je savais que c'était lui. Je reconnaissais sa voix.
C'est pas juste. Pourquoi le monde m'insulte tout le temps? J'essaie de travailler.
J'essayais pas de changer de voix. J'aurais dû changer de voix à chaque fois. Ça aurait été encore plus drôle.
Ouais, ça aurait été encore plus drôle.
Mais non, mais en
plus. Cette année-là, Éric Lapointe aussi, c'était pas présenté à répétition.
Non, non, non. C'est ça. Éric Lapointe devait faire... À un moment donné, Éric m'appelle. Il dit « OK, je vais faire le gala, mais tu viens faire mon spécial à TV. Je vais chanter « Oui, vive le cul », puis tu vas être mon choriste avec Lise Dion. » Je dis « OK, on va y aller. » Parfait, on y va. Non, non, pas de problème. Fait qu'on chante « Ouais, vive le cul », il était bien en cuir, tout, puis tout allait bien, toute l'affaire. Le jour de la répétition officielle, Éric, il est arrivé un accident dans les bars, ça arrive jamais. Je sais pas ce qui s'est passé.
Ben, il est comme planté d'une table en verre. Il avait le bras cassé.
Écoute, il s'est ouvert le bras.
C'est vrai.
Oh oui, il s'est ouvert le bras.
Fait qu'il vient pas à répétition, le gars-là, c'est le soir, là. L'après-midi, c'est la répétition, il se pointe pas.
Là, le gérant m'appelle. Moi, je capote. J'appelle le gérant, il dit, là, tabarnak, je suis allé faire, oui, vive le cul, il va venir faire son cul ici de sa scène, certain. Fait que là, puis là, le costume, c'est un costume de bonhomme carnaval. Il était tout fait, le costume. Ben, là, il arrive à répète, esprit, il a le bras de main. Il est tout décollissé. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai dit, on refait le costume de la marde. Fait que le bonhomme est à manger de main avec une tête. On lui a fait faire les voix l'après-midi. Il a fait du lip-sync. Le soir. Anyway, on s'en sacrait. Il y avait une tête de bonhomme carnaval sur la tête. On le voyait pas chanter. Fait qu'on avait tout préenregistré ça. Puis, en tout cas, on avait réussi à faire le numéro. Après ça, on avait engagé un imitateur pour faire toutes sortes de personnes qui venaient chez le prix, qui étaient en crise parce qu'ils gagnaient pas.
Ouais.
Puis, le gars arrive le jour même. Instinction de voix, pas capable de faire ça. J'avais demandé à Jean-Pierre Ferland de faire une parodie pour rendre hommage à Jean Lapointe. Il a oublié les textes. Il fait, non, je vais refaire ma version dans... Tout allait mal, tout en avant.
Puis c'était l'année... À place de faire une parodie, lui, il a fait, non, je vais faire la version originale.
Ma version originale. Il a fait ça, ça avait plus rapport pantoute. Là, en plus, c'est que c'était l'année où tout allait mal. Fait que tout le monde s'excusait, tu sais. Puis moi, je m'étais fié au timing de l'année d'avant. Fait que je me dis, au timing de l'année, merci beaucoup, je remercie mon père, ma mère, on part en tournée, venez nous voir, parfait, bye. Là, c'était pas ça, là. En tout cas, nous autres, là, on n'est pas comme les... Non, nous autres, on aime ça, puis là, on fait de la belle job, puis là, ça se finissait plus. Il gagne trois trophées, il dit la même crise d'affaires trois fois. J'étais allé voir un moment donné, je disais, ferme ta gueule, prends ton trophée, puis décrisse. C'est parfait. Tout le monde a compris ton message, là. Puis ça a été le même... On a été une heure de plus que le galop de l'année d'avant. Une heure de plus, là, c'est catastrophique, ça. Le lendemain, je suis resté couché pendant trois jours. Écoute, ça a été un des pires moments de ma vie.
Il était vert puis il shakait, c'était en position fœtale.
Brûlé, là. Ça
a aucun sens.
On le sait pas des fois quand tu sais, vous le voyez à TV puis le lendemain, les gens disent, ah, c'était pourri, Carlis, mais vous voyez pas tout le travail, les mois de travail qu'on peut faire pour monter un événement de même. Tu sais, des fois, il y a des choses qui sont contre toi, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faut vivre avec, faut
dealer
avec.
Tu mets autant d'énergie à monter un show de merde. Qu'un
bon show, il faut l'endosser.
Parce qu'il y a personne qui fait asti que c'est de la merde, mais
non, parce que c'est un one shot. Tu sais pas si ça va marcher ou ça marchera pas. Tu peux pas le roder, tu peux pas l'essayer. Fait que tu travailles aussi fort, sinon plus fort. Quand tu perçois qu'il y a peut-être de la merde à l'horizon, tu travailles encore plus fort.
Ouais, vu que t'es en mode panique.
Ah non, on n'était pas en mode panique, mais c'est comme quand tu sais que tu vas perdre ton élection. C'est drôle parce qu'il y a un politicien qui disait, on le savait qu'on allait perdre, mais tu peux pas dire à toute la gang, en tout cas, on va se la péter en ce soir, mais c'est pas grave. Non, t'es obligé de monter, tu sais, on y va jusqu'à la dernière minute, puis après, on le savait qu'on allait se péter, mais ce qu'on fait, c'est de show must go on. Fait que c'est ça qu'on fait. Puis, mais moi, j'ai aimé faire les deux côtés de la médaille. J'ai fait autant sur la scène que derrière la scène parce que ça m'a permis, premièrement, de connaître tellement d'artistes de toutes les générations possibles et imaginables. Tu sais, la première fois qu'on a fait un gala, j'ai fait la mise en scène de tes galas à Québec. Moi, j'ai découvert ton humour puis j'ai fait comme tabarouette. Entre autres, un gag qui m'a fait, puis pour moi, c'est dans les annales, là, c'est quand t'as fait le gala à Québec, tu dis, nous autres, vous savez... Les humoristes, quand on devient comédien, les comédiens aillent ça en sacrement parce qu'on lui vole le job. Mais à soir, c'est un comédien qui vient faire de l'humour. Puis j'aimerais ça que tout le monde ensemble, t'en souviens-tu?
Ah ouais, tout le monde dit, crie chou.
Va chier.
Va chier.
Va chier. OK, fait que tout le monde, il fait répéter, Mike, va chier, va chier. OK, un, deux, trois, go, mesdames, messieurs, Dave Richer, il rentre sur la scène en chaise roulante, le monde n'a jamais bien raide. Jamais bien raide. Ça, là, à vie, ça a été un des meilleurs gags que j'ai vu. J'étais couché à terre.
Moi, Mike,
ça, faut le faire en sacrément.
Mike m'a fait rire très souvent, moi. Très souvent. Et souvent, dans la vie de tous les jours, tu m'as fait autant rire que dans tes shows, que j'ai adoré, d'ailleurs, tous les shows que t'as fait. Mais maintenant, t'es en France, au Festival de Nantes. Puis, on est en train de faire une entrevue radio et il s'en calisse complètement. Là. Ah, qu'est-ce que vous pensez de l'humour français, monsieur Varde? Ah, honnêtement, c'est de la marde. C'est de la marde. Vous autres, c'est setup prémisse punch. Vous autres, c'est setup prémisse grimace. Puis, après ça, pendant l'entrevue, à un moment donné, il parlait avec d'autres mondes. On était quatre avec Guidantel, puis quelqu'un d'autre est loin. Il se penche à mon oreille puis fait comme, « Oui, Sylvain, là, j'écoute les Français parler. J'ai toute l'impression qu'ils sont à deux drinks de M. Sagraine. » C'est là que je l'ai ri en tabarnak.
Ah, c'est drôle. C'est ça qui est weird. Moi, à cette heure, quand je vais en France, ils ont tout le temps l'impression que j'ai haï. Parce que...
Je sais pas pourquoi, hein?
Mais moi, je sais pas si vous avez remarqué ça. Il y a eu comme un changement dans l'humour français dans les 4-5 dernières années.
Ben oui, ils sont venus ici, fait qu'ils ont compris.
Mais non, mais ils ont... Les tu sais, j'avais dit en gag à un gars un moment donné, la vieille génération de Français me connaissait parce qu'ils volaient mes jokes. Puis la nouvelle génération me connaît parce que ils s'informent sur qu'est-ce qu'il fait. Ouais, ouais. Non, mais tu sais, à cette heure, ils regardent ce qui se passe sur YouTube, ils regardent... tu sais, j'ai l'impression qu'avant, c'était trop théâtre.
C'est vrai. Enfin, il y avait le mur. Les autres, ils jouaient. C'était impossible de communiquer avec le public. Ça se faisait pas en Europe. C'était une question de convention.
Ben, il y en a qui le faisaient. Il y en a qui le faisaient, mais peut-être 50%, là, tu sais, là.
Non, c'est ça. Mais à force de voir un moment donné le stand-up comique, moi, je pense que le stand-up a vraiment changé la donne. Parce que, tu sais, on parlait du monde. Moi, j'ai fait des personnages, mais j'aime aussi faire du stand-up dans mes shows. Parce que le personnage te permet de dire des affaires que tu dirais pas personnellement. Ça te permet de faire parler quelqu'un d'autre.
Oh. François, ton premier show, c'était rien que des personnages, toi.
Mon premier show?
Presque. Nous deux, Maxime Martin, François Mascotte, on était les premiers à faire du stand-up. François Morancy aussi.
Moi, j'avais mis un personnage à mon premier show.
Oui,
vu que...
comment que c'est, Henri?
Mon producteur faisait « ça prend un personnage ». Puis j'étais comme « mais non, ça prend pas un personnage ». Puis il disait « oui, esti, tu sais, si tu veux vendre des billets, ça prend un personnage. » Puis j'étais comme « ça n'a pas de sens ». Puis j'en avais fait un. Puis quand on a sorti le DVD, j'ai coupé le number.
Ah oui, c'est ça.
Tu sais, parce que ça fitait pas avec moi. Moi, j'aime ça faire des personnages, mais moi, c'est ça qui est drôle. Pis c'est ça qui m'impressionne de... Mettons, toi, quand tu fais ou tu faisais des personnages, t'étais capable de l'assumer tout le long. Moi, je suis bon en duo, en personnage. Mais quand je suis tout
comme
seul...
Comme avec Pat, que tu faisais.
S'il y a un gag qui marche moins, là, tu le vois dans ma face que je me dis... Qu'est-ce que je fais ici avec ce petit costume-là? Tabarnak, j'ai de l'air d'un esti d'étron.
Mais moi, j'aimais jouer des rôles de comédien. Puis souvent, le personnage, c'est comme dans un sitcom, si tu veux. Ça te permet de créer une autre situation. Puis ça te permet d'amener ton personnage... tes propos ailleurs, ça te permet... Sauf qu'avec le temps, moi, à un moment donné, j'en fais plus parce que j'ai décidé que je passais à autre chose, puis que j'avais envie de faire des choses, de dire ce que moi, je pensais, puis de parler...
Parce qu'il y a bien des humoristes qui assumaient pas leurs propos à l'époque, je pense. Oh. Qu'un personnage leur permettait de dire ça. Mais Mike, s'il y en a un qui assume ses propos, c'est bien lui.
Oui, tout à fait.
J'ai pas besoin de personnage.
Moi, ça m'aurait pris un personnage, par exemple. Comme ça, de l'œil extérieur, là,
t'as pas de crise. Ton producteur avait raison, finalement.
Mais des fois, t'es un personnage aussi, parce que quand on te connaît dans la vraie vie, puis quand on connaît jusqu'où t'es prêt à aller sur la scène, il y a un écart entre les deux en tabarouette.
Mais
parce que...
moi, je pense tout le monde sur scène crée t'es son automatiquement propre personnage. Un personnage.
Ah, c'est sûr. T'es une caricature de toi-même. Ouais. Exactement. Tu prends une couple de traits de personnalité, t'es exagères, ça devient toi de scène.
Tu sais, il y a une affaire que j'ai entendue dernièrement, l'humoriste australien Jim Jefferies. Il disait, tu sais, souvent les humoristes qui se mettent dans la merde, le monde dit, ah, oh, il a dit ça, ça veut dire qu'il pense ça. Puis il dit, ce que je dis sur scène, c'est pas ce que je pense, c'est ce que je pense est drôle. Puis là, il donne plein d'exemples, mais tu sais, moi, tu sais, il y a mille affaires que je fais sur scène que dans vie, je ferais pas parce que je serais crée, ça pas d'allure faire non, ça quand je suis au Pacini.
Mais
tu sais, sur scène, tu sais...
Mais les gens pensent que c'est tout vrai ce qu'on dit, tu sais. Ils pensent qu'on pense ça, tu sais, fait que...
Ben, le personnage t'a aidé à faire passer la pilule des fois, mais c'est pour ça que j'aimais ça en faire. Mais en plus, moi, je suis comédien, donc, tu sais, j'ai joué dans bien des affaires, fait que le rôle, le jeu en soi m'intéressait. Fait que de créer, par exemple, pis souvent, les personnages que j'ai créés sont issus de la vie réelle, tu sais, comme Bob Cashflow, c'est un gars de bar, c'est les Frères Dubourg. Tu coupes, toi, tu t'en sors-tu?
Non, ben, non, non,
en tout cas,
non.
Je sais pas si vous connaissez c'est des gens très sympathiques... qui travaillait dans les bars des gens qui étaient tu sais des propriétaires de bars là tu sais comme puis ma mère me demandait puis me disait moi bon show là, c'est parce que le cash je l'entends sonner si tu te laisses fait que tu sais quoi faire fait que là tu faisais ton choix en espérant que t'entendes drelin dans le cash parce que sans ça ils venaient te voir après puis non tabarnak qu'est-ce que tu fais, toi, là? Fait que c'était un personnage qui était un gars de la mafia.
Qui était basé sur un ancien booker.
Non, mais c'était un mélange des deux. Il y a un gars aussi à Granby que j'ai rencontré. Puis j'ai fait un montage de tout ça. C'est un espèce de personnage. Tu sais, mon booker dans le temps à Granby, il disait, je voudrais avoir François Léveillé. On a tant de budget dans l'esprit. Là, on vous envoie la photo. C'était un genre d'argument. Moi, il me faisait bien rire.
Oui, moi, je dis, toi, t'es un bon produit, toi.
Ouais, c'est un bon produit. Oui, il donnait un livre de joke, dis, tu fais un choix avec ça. Fait que c'était un bonhomme un peu spécial. Puis j'ai monté Bob Cashel à partir d'une symbiose de tous ces personnages-là. Comme l'animateur de Pastoral, c'était un animateur de Pastoral qu'on avait au cégep, qui rentrait puis jouait du guitare.
Ça avait de la Pastoral au cégep?
Au cégep.
Quel âge que t'as, tabarnak?
Je vais avoir mes fonds de pension l'année prochaine. Moi, je vais pas en parler, mais. Non, mais crime, c'est vrai. Il venait, puis il jouait du xylophone, puis il posait des questions au monde. Savez-vous pourquoi ça va mal dans le monde? Les gens disent, non, ça a collé. C'est vrai, mais il n'y a pas juste ça. Y a-tu d'autres réponses? Puis tout le monde, ça sacrait. Il y avait un chandail en laine en plein mois de juillet. C'était vraiment le bonhomme qui fitait pas pantoute. Puis je trouvais que c'était un personnage intéressant pour parler de rien.
Lui, tu l'as-tu revu après?
J'en ai revu un autre dans le même genre, par exemple, puis je faisais ce personnage-là, il est venu me voir après, puis il fait plus jamais ça. Parce que là, les étudiants vont rire de moi toute l'année. Puis,
OK, il s'était reconnu.
Oh oui, okay. Okay, c'était vraiment ça, c'était des bonnes personnes.
Parce que c'est ça qui est absurde. Moi, j'ai l'impression, moi, mon personnage d'Henri, il était basé sur un gars, puis il y avait...
Tu m'en avais parlé de ce gars-là, c'est un ami d'enfance,
c'est
toi?
Oui, c'est un ami d'enfance.
Travaille le dépanneur, c'est ça?
Il avait travaillé dans un dépanneur avec moi. Puis, ce gars-là, moi, ce qui me faisait rire, il me voyait une fois ou trois ans quand je suis arrivé à Montréal. Puis, à chaque fois qu'il me voyait, il me disait, la deuxième phrase, c'est tout le temps, « Chris, t'es mon meilleur ami. Ça serait le fun qu'on se pogne un appart ensemble. » Puis, je trouvais, ça me faisait tellement rire. Puis, la première fois qu'il m'a vu faire le personnage, je disais cette phrase-là dans un des gags. Puis là, je le vois après, puis je suis « Ah, tabarnak, il va être en crise. » Mais on a pris une bière, puis il m'a vraiment dit, il a fait « Asti, c'est bon, j'aime ça ce que tu fais. Chris, on se voit pas assez souvent. Asti, on devrait... Asti, j'ai le goût. Asti, je vais aller à Montréal, on se pogne un appart ensemble. »
Il y a rien compris.
Mais il disait même pas ça pour joker. Là. Il était sincère. Puis j'ai fait « OK, il le verra jamais. »
Il était un peu naïf, est-ce que tu veux dire?
Oui, non, c'est ça. C'est... Ben, tu sais, quand le personnage, que là, il est devenu quelque chose d'autre avec Patrick Groulx, mais quand le personnage, en gros, c'est c'est sûr, c'est pas le gars le plus allumé que...
C'est ça.
Fait comme, OK.
Écoutes-tu ton émission à soir, lui, ouais?
Hein? Je le sais pas, mais s'il regarde, savoir. Sûrement, je pourrais dire son prénom, puis il se reconnaîtrait pas. Il ferait comme... Il y a beaucoup de Raymond, Westy.
Puis t'enverrais un mail, on devrait apprendre un appartement ensemble.
Mais toi, t'avais fait ton personnage... c'était pas...
C'était une soirée où tous les stand-up faisaient des personnages.
Ouais, c'était au swimming, on avait fait un spécial personnage qu'on demandait à des humoristes qui faisaient jamais de personnage de faire un personnage. Pis Sylvain, c'était...
N'importe quoi.
Vraiment travaillé fort.
Je suis pas bon des personnages, OK? Je m'étais fait un bungalow vraiment, là, tu sais, dans une boîte de carton avec un toit, puis je l'ai bricolé, puis j'avais fait un chapeau avec. Puis le personnage commençait en disant, j'entends des voix dans ma tête, fait que je leur ai fait un bungalow. Puis tout le long, c'était des lignes absurdes de même. C'était épais.
Mais toi, c'est surprenant que t'as, à l'école, ils t'ont imposé des personnages?
Ils ont essayé.
OK.
Ils ont essayé, ils ont pas réussi.
OK. Fait qu'à chaque semaine, ils disaient, là, Sylvain,
faudrait... Tu pourrais essayer un personnage. Non, je n'ai essayé un personnage. La première fois que j'ai fait un show sur scène, c'était au lundi juste pour rire au Club Soda à l'époque, en 91, genre. Puis j'avais un personnage de directeur d'école secondaire qui faisait un des jeux de mots de marde. Je l'ai plus jamais refait après. Mais tu sais, c'est le seul personnage que j'ai fait, c'est ça.
Ouais. Qu'est-ce qui est drôle, en plus, moi, je me rappelle quand je m'étais dit, je vais essayer un personnage... Après deux phrases, ça sonnait comme juste un autre personnage que j'avais vu que j'aimais.
Ouais. Ouais.
Fait que, je vais faire un vieux. Après une minute, c'était Monsieur Caron d'RBO, puis c'était juste ça. T'sais.
Mais moi, les personnages sont arrivés aussi parce que je partais. Moi, j'étais auteur, compositeur, interprète. Moi, j'ai été chanteur pendant bien des années. Puis après 80.
T'étais chanteur pendant 15, 20 ans.
Avant. Fait que j'ai fait trois albums, en fait.
Ah, t'as eu de la pastorale au cégep, c'est
vrai. Écoute, c'est ça. Puis, non, mais j'ai quand même bien fait. J'ai fait de la tournée en Europe. J'ai fait ça à un moment donné. Puis après 80, après le référendum de 80, en fait, la culture québécoise a droppé, là, le théâtre, ça a droppé, le cinéma, la chanson, tout, puis c'est devenu comme, on est passé du fond à la forme complètement. T'es arrivé que le disco, les claviers, les synthétiseurs, la coke est là-dedans, pas à la place du pot. Ça a tout changé, la façon de voir les choses, ça. Puis, Moi, j'ai été comme une période de purgatoire où je savais plus ce que j'allais faire dans le métier. Puis là, ils sont arrivés lundi juste pour rire. Louise Richer, parce que je faisais un petit peu de monologue ou de présentation plus que de monologue.
T'étais drôle entre tes tonnes.
C'est ça. Ton premier numéro, c'était mal à la tête?
Mal à la tête, c'est ça, exactement. Ça a été un hit.
Je me suis levé un matin, j'avais mal à la tête. J'avais une fissure qui partait là.
Qui passait là.
Et tu as entendu le crise de même numéro?
C'est le gars qui consomme tout le temps pour essayer de se repomper, mais ça fait une boucle puis ça arrête pas. Je vous le ferai pas, là, c'est long, là, mais
c'est un super bon numéro.
Qui a super bien marché. Puis là, fil en aiguille. D'ailleurs, c'est le seul numéro que je faisais qui était pas un personnage, dans le fond, c'est stand-up. Puis après ça, j'ai essayé de faire d'autres affaires. J'étais mal à l'aise parce que, premièrement, je me voyais plus comme chanteur que comme humoriste. Puis c'est les personnages qui m'ont permis de faire le pont tranquillement, pas
vite.
Sans ça, je serais peut-être pas arrivé à faire de l'humour comme je le voulais. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à enlever ça. C'est drôle parce qu'au début, ça, c'est drôle, les personnages, parce que t'en mets épais en tabarouette. Tu sais, t'as la perruque, t'as le veston, t'es choulié, les bottes. C'est juste que t'as pas les bobettes pour dire « OK, là, je l'ai ». Puis à un moment donné, tu réalises que c'est une convention. T'en enlèves. Finalement, tu te mettrais juste une paire de lunettes. Le personnage est là. Mais au départ, j'avais besoin comme de m'enrober de tout.
Ouais, c'est normal.
Moi, Pat Gros, un moment donné, on avait, nous autres, les Simon et Henri, il y a une année qu'on a fait que Pat est pas habillé pareil parce que on avait les dents engraissées puis il rentrait plus dans son col roulé. Fait qu'il avait mis une chemise. Là, j'étais arrivé puis là, j'avais fait, c'est quoi ça, Chris? Puis il a dit, ah, le col roulé me fait plus. Puis j'ai fait, pourquoi t'as pas acheté un autre col roulé, tu sais? Puis il a dit, ah, le monde ne remarqueront pas. Puis personne n'a remarqué.
Ouais, non, effectivement, c'est une convention.
Même, on avait fait un moment donné, Pat Gros, tu sais, il y avait son émission Le Gros Luxe, à Musique Plus. Puis il avait fait une chanson qui s'appelait Dans les bois. Puis là, on voyait Simon et Henri dans le clip. Puis il a dit, asti, on va juste faire, vu qu'on chante, toi fais mon personnage, moi je vais faire le tien. On a inversé nos personnages, personne n'a remarqué.
Personne s'en est rendu.
Là, tu vois que le monde s'en calisse.
Complètement.
Nous autres, on se donne tellement du trouble en se disant, non, le monde va... Ça, toi, t'es en train de revenir à musique, pardon.
Ben moi... Quand j'ai eu 60... En fait, ce qui est arrivé, là, c'est que moi, ma fille est auteur-compositeur-interprète, Sarah.
Ouais,
et puis, elle a gagné Cégep en spectacle en 2008. Puis là, elle m'a dit, elle m'a appelé, c'est-à-dire, puis elle m'a dit, je suis en studio, je veux faire un album, peux-tu me passer 10 000 piastres? Fait que, disons, je pense que ça marche pas tout à fait de même, faudrait qu'on s'en parle, tu sais. Fait que là, je me suis dit, moi, à 60 ans, je reviens à chanson parce que je trippe la guitare, premièrement, j'étais un collectionneur de guitare, j'étais un joueur de guitare, puis je m'ennuyais de ça. Puis j'ai décidé de faire une formule hybride, humour et chanson. Puis ça s'inspire, mes chansons sont soit la conclusion d'un monologue ou l'intro, puis tout, puis ça marche, la formule marche super bien, on a du fun pareil, mais ça me permet aussi des fois de dire des affaires différemment, tu sais, de passer par des émotions plus vraies. Puis en fait, on a parti notre maison de disques, ma fille et moi, puis j'ai fait mon premier disque en 2012 en même temps qu'elle, puis là on vient de faire notre deuxième album, elle l'a sorti en février, moi en avril, puis depuis ce temps-là, je roule cette formule-là, puis j'ai du fun à le faire parce qu'on tripe, j'ai deux maudits bons musiciens avec moi. Puis, c'est le fun parce que tu passes par toute la gamme d'émotions. Moi, je me suis toujours dit, un bon show, c'est comme un bon buffet. Tu passes par tout, puis tu jases de tout autour de la table. Puis, tu passes par toutes les gammes d'émotions. Puis, à la fin de la soirée, tu te dis, calisse qu'on a passé une bonne soirée. Pour moi, c'est ça, tu sais. C'est comme si, ici, actuellement, ce qui est le fun, c'est qu'on peut parler de tout et de rien. Mais on parle du métier, on parle des travers, on parle des erreurs qu'on a faites, des bons coups qu'on a faites. Puis, c'est ça qui est le fun. Tu sors en disant, calisse, c'est intéressant, c'était le fun. Puis j'ai décidé d'être de même, puis ça marche. J'ai eu du fun à le faire.
C'est quoi, tu sais, toi, avec la carrière que t'as eue, c'est quoi, tu sais, tu disais des erreurs qu'on a faites, une erreur, mettons, que où t'as-tu des regrets ou t'as
ben,
pas...
Ben, moi, tu sais, des fois, je me demande, si t'avais à refaire ce métier-là, le referais-tu différemment? Je dis oui, je le ferais complètement différemment, parce que quand tu vas au restaurant, là... Tu manges pas toujours la même affaire. C'est le fun d'aller ailleurs sur le menu. Fait que c'est pas pour les erreurs que j'ai faites ou les bons coups
ça
que j'ai faits.
C'est
que j'essaierais d'aller voir. Ce métier-là, il est trippant. Puis c'est le fun de tout découvrir. C'est pour ça que j'ai trippé à faire de la mise en scène. J'ai trippé à travailler avec un paquet de monde qui est. Tu sais, les Denis Drolet, la première fois que j'ai monté ça, c'est un gars-là des Olivier. Écoute, tout le monde a fait comme c'est quoi ça, tabarnak? Le défi du metteur en scène, là, c'est de faire qu'il faut que le pont se fasse entre eux autres puis le public. Puis à Québec, à un moment donné, on savait pas quoi faire parce que dans la salle, les gens disaient
Ouais.
C'était vraiment, je comprends pas, ils catchaient pas. On essayait, j'ai mis un feu de camp devant les autres, y a rien que j'ai pas fait. Puis c'était juste les shots dans la salle étaient plus drôles que les autres sur la scène, parce que les autres même, je pense qu'ils se regardaient puis ils disaient, je comprends pas.
Je me rappelle ce gars-là, en plus que il y avait, tu sais, la télé, ils vont souvent faire. Si mettons l'humoriste parle de gros, ils vont filmer un gros pour montrer que le gros est rire, fait qu'on a le droit de rire des gros. Là, c'est pas mal ça qu'ils essayent de faire. Mais là,
avec les Denis pointaient des barbus.
Ouais, mais les Denis pointaient, c'est ça, des barbus. Puis il y avait un monsieur qui faisait juste. Puis tu voyais qu'il aimait pas ça. Il faisait comme.
Moi, je broyais en coulisses parce que je riais plus d'avoir la réaction des shots dans la salle que les autres sur la scène parce que.
Je sais pas si vous venez d'un show qu'on a fait un moment donné, c'était au Spectrum. On enregistrait deux spectacles ce soir-là. Un hardcore puis un softcore.
Ouais,
les deux publics sont mélangés. C'est-à-dire que le premier show était très hard, dont Mike qui était dessus. Et puis, c'est un public plus jeune. Et le deuxième, c'est un public plus âgé.
C'était des
humoristes plus âgés.
Classique de l'humour.
Le deuxième, c'était classique. Les interdits. Et puis, ils ont mélangé les deux publics. Fait que t'avais la vieille crowd qui s'est pointée au show hardcore.
Ils sont venus en autobus, c'est pas des fans.
Je voyais la réaction du public au numéro de Mike, là, je pleurais dans les loges. Je faisais comme,
mais t'en es lâché une coupe
de
mois.
Ils vont saigner des yeux, c'ti.
Écoute, il a dit à un monsieur, là, arrête de rire, tu vas péter ton sac. Il y a un autre, pas dedans, ça doit être sans tabarnak. En tout cas, il y avait plein de belles petites phrases comme ça. Puis... Mais c'était vraiment le soir, le public avait rien à foutre. Là, tu sais, c'était vraiment, ça marchait pas.
Ils ont,
allé voir
ils ont inversé les deux publics.
Ah oui.
C'était vraiment drôle.
On peut pas faire de show de même, ça a pas de mal. Tout le monde sortait, puis dans le fond, les seuls rires que t'entendais dans la salle, c'était mon Dieu Seigneur. Ça a pas de bon, ça a pas de bon sens.
Tout était script éditeur là-dessus?
Non, je participais au.
OK.
Oui, c'est Luc Sonnet qui faisait la mise en scène.
OK.
Puis moi, je faisais la mise en scène du premier, je pense, de mémoire, en tout cas. Mais...
Moi, j'étais là sur un des deux shows, mais je ne sais plus lequel. Je sais plus. Mais je t'ai vu, c'est un souvenir.
Mais je me rappelle...
Je sais pas, souvent, on rit plus beaucoup des jokes parce qu'on en voit trop, on en écrit trop. Mais quand on voit un de nos chums avoir de la misère sur scène, c'est ce qu'on rit. C'est vraiment...
Ouais, puis les chiens viennent te donner une tape dans le dos. Ouais, ça va bien aller. Tout
fait y a rien, mais c'est vrai, il y a rien de plus drôle que de voir quelqu'un que, tu sais, mettons quelqu'un que tu trouves pas bon qui se plante, c'est pas le fun.
Non, c'est pas le fun.
Quelqu'un que tu sais que
tu t'as l'air, puis il se plante, c'est juste drôle.
Il pourrait être capable de faire rire, mais juste pas là.
Mais c'est comme quand des fois, mais juste montrer les différences de ville. Chaque ville a sa mentalité, puis chaque ville répond pas au même gag de la même façon. À un moment donné, on avait fait les lundis juste pour rire, puis j'avais fait un number. C'était suite le gars qui, quand je passais les auditions, le gars qui avait passé, il essayait du linge, puis finalement, j'avais trouvé ça. Je riais parce que je trouvais ça tellement poche que je comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a un maudit bon number? Je dis à Louise Richer, asti, j'ai une idée, je fais ça lundi.
Mais faut dire que dans le temps où lundi juste pour rire, t'avais un segment du show, c'était les gens qu'on a refusés pour le show.
Ouais,
okay. Fait qu'il y a des petits bouts d'audition, tu sais.
C'était le bout de poche, c'était les auditions.
Puis les humoristes passaient, ils faisaient une minute d'audition poche, puis ils s'en allaient, mais le monde riait parce qu'il y avait un deuxième degré.
C'est ça. Fait que moi, j'arrive avec un number, puis je dis, je vais faire.
Le number de Godlinge.
C'est le number de Godlinge qui punch, mais il punch, il n'y a pas de punch, tu sais. Fait que ça commence, hey, bonsoir tout le monde. Un matin, je me lève, toi. M'en est le cadran sonne, il m'a réveillé ben raide, lui, là. Merci. Puis le numéro, il dure 5 minutes de même.
Livré avec la, tu sais, la chanson comique, là, mais il n'y a pas de punch.
J'ouvre le garde-robe. Ah, si, il y avait plein de linge là-dedans. Merci. Pogne la chemise, mets la manche, douette, mets la manche, gourde, mets un bouton. M'en est, j'étais tout habillé, moi, là. Merci. Fait que... Finalement, le number, ça marche à la planche au lundi. Mais je dis, là, j'appelle Mario Grenier à Québec, au Dagobert. Je dis, hey, je vais faire ça. J'ai un nasty number, mon gars. J'arrive là.
Mais c'est parce que le contexte, c'est lundi, il l'expliquait. C'est des auditions poches.
C'est ça. Mais à Québec, ils faisaient pas ça.
Ils ont pas expliqué à Québec.
Je monte sur la scène, bien sûr de moi. C'est, hey, un matin, je me suis levé de cadran en scène. Marie, il est bien raide, là. Merci. Ça réagit comme vous autres. Là. C'est la même maudite affaire. Fait que moi, je continue. Puis là, Mario Grenier, il me regarde. Il est en dépression. Je suis sûr qu'il va pas bien. Là, il vient me voir en coulisses après. Il dit, qu'est-ce que t'as fait là? Puis moi, je ris. Mais là, il dit, non, il va pas bien. Il va vraiment pas bien. Il catchait pas en tout ce qui s'était passé. Mais ça arrive, tu sais, je sais pas si ça t'est arrivé en tournée, toi, de parler maintenant à Montréal, tu fais une joke, puis t'arrives à la Rimouski, c'est pas gros, calif. Non, non, je pense pas faire ça.
La première fois qu'on a fait un show ensemble, j'ai ouvert pour toi, Dagobert.
Oui, effectivement.
Première fois, monsieur.
C'est chaud, rien d'autre à dire.
Moi, il y avait... Moi, en début de carrière, je voyais une... moi, je marchais bien à Montréal, à Québec, puis nulle part ailleurs. Tu sais, quand j'allais en région...
Avec le genre d'humour que tu faisais, c'est normal.
Il était religieux, le monde, à l'époque. Fait que j'étais comme Satan, un peu. Puis
je te surnommais Belzébuth, d'ailleurs.
Ouais. Puis le monde, tu sais, banlieue de Montréal, il partait de Montréal pour s'éloigner du monde comme moi. Fait que là, tu sais, des soirées à Laval, là, je choquais. Mais après, avec le temps, je sais pas si c'est en vieillissant ou quoi, mais là, c'est moins pire que c'était.
Ben, ils sont acclimatés aussi, tu sais. L'affaire que j'ai toujours admiré de toi, c'est que même à l'époque où c'était dur de faire passer ton humour, t'as jamais lâché. Mm. Jamais lâché ta traque, puis en quelque part, t'as éduqué le public. Tu sais, puis parce que quand tu fais mi figue mi raisin, si tu essaies de faire plaisir à tout le monde, tu feras plaisir à personne.
Ouais,
ben, tu comprends? Fait qu'autant il y a du monde qui vont te détester, autant il y en a qui vont t'aimer. Puis je pense que ça, c'est préférable à une carrière moyenne.
T'sais. Yann, il avait dit une affaire tellement drôle dans son podcast il y a une couple d'années, quand il était venu voir mon show Mike Ward s'expose, puis il avait dit, madame, t'as-tu ton micro, Yann? T'avais dit qu'il y avait des madames qui disaient, Mike Ward, il est allé trop loin, puis il était comme, Chris, c'est Mike Ward qui s'expose, il est allé trop loin, ce serait comme aller dans un bar gay pis faire, hey, c'est vraiment trop gay ici.
Ben oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, tu te pointes là, assume, là, Chris. Là.
Ouais, c'est ça, en gros, que t'avais dit.
Ouais, pis ça avait t'as pas besoin de micro, finalement.
Ouais, non. Mais là, j'attends qu'il leur place. Là,
il a couru pour aller chercher pour rien.
Chris me dit, ça va lui faire du bien faire du sport.
Mais
ça, c'est tellement méchant. Je fais une joke de gros d'un gars qu'on voit même pas.
Il n'y a pas besoin de se défendre de même. Il est parfait. Mais un des points, moi, quand je faisais du coaching ou quand je faisais de la mise en scène avec un artiste, c'est il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que si tu n'assumes pas ce que tu dis, si on connaît pas, parce que tu peux sortir un mot du bon gag, mais qui est anonyme. Faut que tu parles de toi, puis faut qu'on. J'ai toujours comparé ça un peu à un rôle d'acteur puis un rôle d'un sitcom. Un personnage de sitcom, lui, il change pas, c'est la situation autour de lui qui change. Puis le personnage va toujours rester une caricature. Dans un téléroman, le personnage évolue, puis on finit par s'attacher au personnage. Un humoriste, je pense qu'un bon stand-up, on finit par y trouver une personnalité, il y a une couleur, il y a un tempérament, il y a un caractère, puis il y a une opinion. Puis c'est toute la différence entre celui que tu vas reconnaître et celui qui va passer complètement inaperçu.
Mais surtout, il y a un angle. Parce que la qualité de n'importe quel texte, c'est jamais dans ce que tu dis. Et dans l'angle que tu prends pour en parler, tu sais. Puis toi ton personnage que tu as développé de scène, je pense que le secret, puis je sais pas si même tu es au courant, mais quand tu fais un gag, on a l'impression que tu nous racontes un secret comme un petit gars d'une cour d'école qui veut faire un mauvais coup. C'est vraiment toi, ça. Et ça, c'est efficace, mon vieux, c'est là. Genre. T'es le seul à faire ça, mais c'est vrai.
Moi, j'ai jamais remarqué que je faisais ça.
Ben, tu sais...
C'est
vraiment ça. C'est comme, moi, t'es sur scène, j'ai l'impression que tu parles à moi tout seul d'un mauvais coup qu'on va faire dans la cour d'école. Carrément, l'attitude, le delivery, c'est ça. Et t'as trouvé un créneau que personne d'autre a fait.
Ouais, mais personne d'autre veut non plus.
Ben! Ben! C'est proche de ta personnalité, t'as exagéré une couple de traits de ta personnalité, pis t'as trouvé ta caricature de toi-même.
Mais moi, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait tout le temps rire quand le monde dit, asti, il est tellement méchant, Mike Ward. Moi, je vois pas ce que je fais comme étant méchant.
Le moins méchant que je connaisse,
asti. Mais même sur scène, moi, je vois ça comme, je dis des énormités, mais que c'est tellement clair que c'est un gag.
Ben oui.
Mais ça l'air pas tout le temps. Mais. Ça, il y en a.
Tu sais, comme, à un moment donné, j'avais fait une série de documentaires, moi, qui s'appelait Humour PQ. Que j'avais écrit avec André Ducharme.
Oui, c'était très bon, ce documentaire.
Moi, c'était une bonne série. Et on avait interviewé Yvon Deschamps, puis on avait parlé de Nigger Black, son numéro. Et puis, il disait, ouais, mais tu sais, à l'époque, moi, je faisais un personnage qui parlait des Noirs, tout ça, puis moi, je voulais rire des gens qui avaient cette attitude-là. Tu sais, je voulais pas être ça, tu sais.
Mm.
Puis, il disait, ouais, faut dire aussi qu'ils ont mal pris, parce que, bon, je les aidais pas, là, j'étais pas déguisé, j'avais la même voix, la même face, fait que, ouais, je comprends qu'ils ont mal pris ça, tu sais, mais c'est ça qui arrive. Quand tu fais du stand-up, les gens assument automatiquement que t'assumes tous tes propos,
et
que tu les penses, et que tu les crois, et que tu les vis.
Mais il y a une chose, par exemple, qui peut arriver souvent aussi, c'est que Toi, mettons, moi, je me souviens d'avoir un numéro que j'avais écrit sur un juge, OK? Puis c'était un juge qui était étroit d'esprit, qui était dans son bureau, puis qui en voulait à la planète entière. Le juge en soi, puis ça, c'était suite aux événements dans les nouvelles, on avait vu des juges qui étaient allés chez des prostituées, des affaires, puis il y avait des scandales qui sortaient, puis je me dis, dans le fond, les juges sont comme Monsieur Tout-le-Monde, ils ont des préjugés, puis c'est, dans le fond, l'histoire d'un juge qui parle contre les Noirs, contre les Indiens, contre tout. Puis à un moment donné, à radio, ils ont décidé de prendre un segment de mon monologue. Ça change complètement hors contexte. Puis ils l'ont passé en onde. Ben, j'ai eu la communauté autochtone sur le dos parce qu'ils étaient certains que j'étais un maudit raciste, alors que c'était pas ça du tout l'intention. C'était de montrer, au contraire, que même dans les hautes instances, des fois, tu peux faire des erreurs de jugement. C'était ça le message de mon monologue. Puis il a fallu, à un moment donné, qu'on s'excuse, qu'on aille voir, qu'on donne le numéro complet pour finalement dire « Ah, OK, mais... » Tu sais, ça peut te mettre dans le trou, ça. Fait que c'est bien important, des fois, de
nuancer les affaires comme ça. Des gags hors contexte, c'est jamais...
non?
C'est
jamais payant.
Même moi, on a décidé, là, moi et Michel, que mon prochain show, on veut plus de critiques, vu que chaque fois qu'il, mettons, il cite un gag... Tu sais, le monde dans la salle, on comprend que
contexte,
c'est un gag, mais là, le monde à la maison lise, hein, pourquoi qu'il a dit ça? Puis, tu sais, c'est ça. Il y a une affaire que je veux parler d'un gag qui a été mal pris. C'était quand tu avais fait la mise en scène du gala de moi puis Patrick Gros à Juste pour rire, que c'est la première fois qu'on voyait Pierre Hébert faire vendredi, on fait l'amour. Toi, ça c'est un personnage dans
Annie et ses hommes.
Annie et ses hommes, je jouais dedans,
c'est ça.
Puis ils ont pas trippé, hein, la gang d'Annie et ses hommes.
C'est-à-dire qu'au départ, j'avais approché les auteurs, je leur avais demandé, est-ce que vous permettez de qu'on utilise le personnage? Elle était, je comprends d'ailleurs, mais elle était insultée parce qu'elle dit, vous allez tuer mon personnage, puis toute l'affaire. La première année, ils ont jamais voulu qu'on le passe, puis finalement, Pierre a décidé de jouer pareil. Puis, il y a eu malheureusement un malentendu, puis ce qui fait que effectivement ça a été tough. Pourtant, ça a super bien passé. Moi, je trouve que ça a super bien vendu le personnage. Ça, il a pas nuit pantoute, puis il essayait pas de nuire au personnage. Au contraire, c'est un personnage qui a été payant. Il a gagné au Gémeaux avec ça. Puis, tu sais, fait que ils ont même été jusqu'à l'amener, je sais pas s'il y a 2 ou 3 ans, le vrai personnage
contre
l'autre.
Ils ont fait un duo.
Moi, j'avais essayé de l'avoir, puis il n'y en était pas question. Lui avait accepté, puis les auteurs ont jamais voulu. Tu sais, c'est très délicat. Je pense qu'il a fallu que Pierre, dans le fond, intervienne directement auprès des auteurs pour leur expliquer que non, c'était pas ça l'intention. Puis je pense que c'était la meilleure personne pour le faire aussi. Mais effectivement, ça a pas été évident cette année-là.
Ouais. Mais ça, c'est une affaire que j'aimais de travailler avec toi. Puis j'aime ta t'es bon pour te bien défendre, je trouve, les humoristes. Tu sais, il y avait eu une année, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait Simon Cohen. Il avait fait le premier gala, puis après, la gang de Juste pour rire avait fait « On devrait l'enlever ». Puis toi, tu t'étais battu pendant 2 heures de temps pour le garder, vu que c'était son premier gala à vie.
Tu sais que c'est un gars brillant.
Non, plus, mais tu sais, ton premier gala à vie, tu sais, si tu te fais couper le premier soir, c'est sûr tu lâches le
murder.
Si c'était arrivé, d'après moi, Simon, il aurait abandonné, puis il travaillerait chez Rolland.
C'est sûr qu'il aurait été.
Non, mais c'est vrai.
Je pense que c'est arrivé à Philippe Laprise aussi. Je pense que son premier gala, il était pour monter sur scène, mais dans répétition, ils ont coupé. Mais après, finalement, ils l'ont remis sur le gala. Mais ils ont bien fait, Chris, la bonne Maurice, là.
Mais tu sais, puis Maxime, ça, c'était l'année que Maxime Martin s'était fait couper. Puis Maxime, tu sais, il était déjà établi. Puis ça l'a fucké dans sa confiance pour 2-3 ans, tu sais.
Ouais. Mais moi, je pense que le gros problème quand tu montes un gala, là, c'est qu'il y a 2 façons de penser. Il y a la façon du metteur en scène, puis il y a le show. Puis il y a la façon de la télévision qui récupère et qui va faire ce qu'elle veut avec le show. Et c'est là, moi, que je pense que le metteur en scène doit intervenir. C'est que moi, je m'excuse, mais je fais un show. Puis ce show-là, vous allez le respecter de A à Z. Et souvent, je me suis pogné avec les producteurs, je me suis pogné avec bien du monde parce que je me suis dit, non, le pacing, il est bon, ce gars-là, il est à sa place. Puis si vous, je m'excuse, c'est pas mon esti de problème si vous avez des problèmes avec les commanditaires ou avec ci ou avec ça. On a monté un show, vous l'avez accepté au départ. On s'est pété à gueule des fois, mais on l'a assumé jusqu'au bout. Puis il y a des fois, un des meilleurs pétages de gueule, le fun, là, c'est le gars-là, de Lise, on fêtait le 25e anniversaire de Juste pour rire. Puis on monte le gala avec Lise Dion.
Oui, je t'ai scripté tout ça.
Et puis on avait monté en ouverture, je dis on va faire un gâteau. Puis on va faire danser des danseurs, puis des pointes de gâteau vont se rassembler. Lise va monter l'escalier, puis elle fait la cerise sur le gâteau, puis tout. Wow, quelle idée géniale! Tu me trouves des danseurs professionnels pour aller là-dessus, par exemple, parce que c'est pas évident, là. Fait que pas de problème, on embarque là-dedans. Écoute, on monte des gâteaux, premièrement, les gâteaux pesaient 25-30 livres. Et on a des danseurs qui ont 12 ans. Les visières, parce qu'il fallait qu'ils voient dans le gâteau, là, il y avait des visières, ils arrivaient au-dessus de la tête de même. Ah, là, on essaye de monter la chorégraphie. Toi, le carambolage que t'aurais dû voir le premier soir, ça a pas de Christie de bon sens. Fait que là, je fais refaire les gâteaux. Je dis là, c'est bon, tu sais, on met des échasses aux danseurs, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Finalement, je dis, laisse faire la danse, esprit, on va juste assembler le gâteau, ça va être déjà pas pire. Finalement, c'est pas trop pire, on réussit à monter le gâteau, l'escalier arrive en arrière, Lise arrive, Sunday, tout va bien. Fait que là, à la dernière minute, elle dit, ouais, mais il y a des marionnettes de rue, les grosses marionnettes géantes, ça serait le fun de les avoir en fond de scène. C'est le producteur dit ça, on pourrait mettre ça. Je dis, ben, regarde, si tu veux y mettre, on va y mettre, c'est tout. Fait que là, l'idée m'en est, ça serait le fun de, en dernier de tout, on met des petits-enfants avec des chandelles, ça la scène, tu sais, puis ils tournent autour du gâteau, puis, fait que on essaye ça, on répète, ça va bien, les marionnettes sont pas là. Le soir du gala, les petits-enfants sont tous là, sont tous primés, ils ont répété, tout va bien, les marionnettes rentrent, toi, les petits pognent la chienne, ils partent tous à broyer. Panique générale, le gâteau, carambolage, ça marche plus, y a plus rien qui marche pas en tout. Ben, on s'est pété à la face. Mais le lendemain, on a vu une belle page couleur dans la presse, mais le lendemain matin, le producteur a dit, non, ça revient pas, le petit gâteau. C'est correct, on l'aurait essayé, c'est tout. C'est pas grave, c'est de, tu sais, on travaille pas dans une mine, puis on a du fun. T'sais, on est ici pour essayer d'essayer des affaires.
Il y avait, je me rappelle le gala avec Patrick Grou. C'est ça qui est drôle. Souvent, tu sais, les producteurs font, tu sais, nous autres, ça nous prenait, moi puis Pat, je me rappelle pas comment ça commençait, mais Pat, mettons, parlait contre sa mère, puis sa mère était dans la salle, puis là, il parlait contre mon père était dans la salle.
Ah, ouais,
là,
oui,
là,
oui,
là, drôle, là il parlait d'humoriste, puis c'était comme quasiment une parodie de, tu sais, les numbers que aussitôt que t'es sur scène, puis t'insultes, tu sais, comme, mettons, ça serait comme, tu sais, Sylvain Larocque, ah, mais calisse, Sylvain, tu sais. Ouais. Il y a
eu des milliers de même. Là.
Mais là, nous autres, ça nous prenait des personnes âgées pour jouer mon père, puis la mère à Pat Grou, mais il y en avait pas booké, puis
je pense que j'aurais participé.
C'était à Laval, ça.
Ouais.
Ah oui. J'aurais participé à ce double-là.
C'était, ouais, c'est ça. Il y en avait booké pour le gala, mais à Laval, il fallait que toi, t'aies un foyer de personnes âgées.
Essayer
d'attirer des petits vieux. comme un pédophile de vieillard.
Je suis parti avec ma décapotable puis ma fille Sarah, qui était mon assistante. Je dis, on s'en va au Résidence Soleil. Il faut qu'on ramène 12 petits vieux. Tu sais, fait qu'on s'en va au Résidence Soleil. Y a-tu des gens? Puis tu vois, OK, parfait. Puis là, je dis, ben, c'est toi, j'amène tranquillement. Il était content, toi, chose. Je dis, OK, on fait un voyage.
Géant, t'as pas le choix
on a
de
fait trois
suivre,
voyages de même pour les amener. Parce qu'il y avait pas, il n'avait pas. Il savait pas.
Quand ils sont en chaise roulante, il n'y a pas le choix de te suivre.
Ben, il n'y a pas le choix. On l'a attaché au bumper en arrière, puis. Mais en tout cas, mais ça a été effectivement à la dernière minute, on a eu des surprises de même.
Mais ça, ben même tu sais le numéro avec Pierre que son la deuxième année Pierre Hébert arrivait
là
Pat Grou le tirait. Tu sais c'était nous autres ce qu'on voulait, c'était avoir un gars de paintball qui shootait.
Ouais.
Tu sais un pro, mais là il disait, ah non, ça va être, c'est trop compliqué. Fait que là, on a dit, OK, on va pogner une affaire, tu sais, que ça explose. Puis là, ils ont dit, ah, c'est trop, ouais, ça coûte trop cher. Là, on était comme, Chris, ça coûte trop cher. C'est quoi? C'est 300 piastres, hein? Puis c'était un prix ridicule de même. Puis on l'avait eu, vu, moi, un moment donné, d'un meeting, j'ai fait, Chris, je vais le payer. Puis j'avais sorti de l'argent, tu sais. Ouais. Mais c'est weird d'être obligé de dire à
Ça, c'est le nom de bien des mises en scène qui disent au départ, lâchez-vous lousse, là, là, on veut un gars là écœurant pour toute l'affaire. Là, t'arrives, non, mais là, on peut pas le faire parce que, non, ça faut... Un petit peu moins. OK, parfait, on continue.
Mais,
puis, ah non, ça, on n'a pas d'argent pour faire ça. Ouais. Ah, les droits d'auteur, on peut pas les tunes. Si on y joue, on va payer trop. Fait que finalement, ton gars-là, il fait ça. Puis t'es obligé de t'engueuler pour dire, mon aïe, là, ça va faire, sacrement, on va-tu les avoir, nos affaires?
Puis aussi, il y a une affaire, tu sais, comme cette année-là, c'est la première année que Rachid animait un gala. Puis tu sais, il était signé chez Juste pour rire. Puis, fait que là, eux autres, on dirait, mettons, s'il y avait 100 000 de budget pour les 5 galas, ils ont
mis 80 000.
Tu sais, lui, son gala, ça commençait des explosions. Son 17 Michael Jackson qui descendent d'un hélicoptère. Moi, je veux un pouf. Tu sais, c'est weird.
Non, c'est ça. Fallait se battre, puis c'est la beauté du métier. Ça, c'est ce que vous savez, vous découvrez ça à soir, mais...
C'est ça avec quoi on vit à longueur d'année.
Toi, ben, vous autres, est-ce que vous aimez mieux le travail backstage ou sur scène, ou c'est le mix des deux?
Moi, j'aime mieux le sur scène, mais j'adore le backstage pareil, parce que je me dis qu'un jour, rendu à 70 ans, j'aurais plus envie de faire de la tournée, puis rester chez nous. Maison de campagne, moi, écrire des films, moi, écrire des séries.
Moi, pis... c'est le contraire. Tu sais, là, je fais plus de mise en scène, je travaille plus pour les autres, je fais juste mon show, ma tournée.
Ben, c'est ça, moi aussi, ça te dit. J'aime mieux le show.
Non, mais tu me dis qu'éventuellement, tu veux
éventuellement,
faire de la tournée.
Oui,
mais là, j'adore ça, faire de la tournée. Moi, je pars, puis j'ai du fun au bout. Puis,
ouais, mais t'as pas encore 70 ans, pas loin, là, mais ça arrive.
Ouais, ça s'en vient. Quitte-toi pas. Moi, t'as rangé le coin, moi, tu vois. Puis, non, mais c'est ça. Moi, je pars, sauf que j'en fais plus l'hiver. J'ai décidé que l'hiver, c'était trop tough. La dernière tournée, j'ai pogné le Nouveau-Brunswick au mois de février, mon gars, là. T'as moins 40.
Ah, c'est rough, c'est rough. Je l'ai fait, c'était en février.
Non, j'ai dit fini. J'en fais plus. Fait que l'hiver, là, je passe mon hiver dans le sud, ben tranquille.
Okay,
puis je fais des hivers, hein?
C'est où tu vas?
À Boynton Beach.
OK.
Boynton, je passe mes heures à Boynton.
Mike m'a loué son condo l'année passée à Orlando.
Oui, c'est pas pire, souvent.
C'est le fun.
Ouais. Donc là, on est en train de péter de la boue, tranquillement, on va changer de sujet.
Ouais. non, mais Chris, t'as le droit d'avoir une place.
Non, mais c'est vrai que j'ai décidé, m'en est que j'en faisais plus l'hiver. Fait que l'été, je fais des festivals, mais je fais plus de tournée. Fait que je fais de la tournée au printemps et à l'automne, that's it.
Hey, puis question stupide, pourquoi t'as 8 paires de lunettes?
Non, j'ai 2 paires
d'en fait. OK, je pensais que t'avais plein de...
Non, c'est juste ça.
OK, je pensais... Regarde, c'est l'autre, c'est celle-là. Parce que je me disais, Chris, y es-tu allé au cinéma?
Ils sont pareils,
ils
sont pareils.
Il a volé...
Les 3D. Ils sont pareils, mais ils sont fumés. Les 3D, j'ai même parlé de
ça. Ouais, c'est ça.
Il y en a une pour amener au cinéma.
Toi, ça, t'avais essayé le 3D, hein?
Ben moi, c'est parce que, OK, moi, je suis aveugle d'un œil, OK? Mais, tu sais, depuis la naissance, je suis aveugle d'un œil. Fait que je le sais pas, tu sais, je pense plus. Ça a toujours été de même. Mais à un moment donné, je m'en vais, j'étais à l'université, je ramène ma blonde au cinéma IMAX à l'époque, il y a des films 3D, c'est la grosse affaire. On s'en va là, si je paye 20$ d'étiquette, j'achète du popcorn pour un autre 200$, puis on s'assoit dans la salle, on met nos lunettes, tu sais, puis là, le film commence, tout le monde trippe. Moi, je suis là, ben, c'est bien de la merde, on se voit tout en double. Ah, calice. Ah, tabarnak. J'y ai pas pensé, j'étais avec d'un œil. Ça a vraiment fait ça, là.
C'est drôle, ça, de dire ça. J'y ai pas pensé, j'étais avec d'un œil. Tabarnak. Calice.
Mais je suis même depuis ma naissance, c'est comme, OK, c'est un accident qui est arrivé avec le forceps.
Ouais, ouais.
Ils m'ont sorti avec un forceps, ça a fait ça. Une hémorragie interne que tu es le nerf optique. C'est mon œil, mais il voit pas. Mais moi, je savais pas, t'es bébé, tu nais. Tu sais pas que tu peux être autrement, tu comprends? Fait que mes parents ont su à l'âge de 3 ans que j'étais aveugle. C'était ma fête, on jouait à pique la queue de l'âne, puis j'avais un bandeau sur les yeux. Puis là, un moment donné, je l'ai relevé d'un bord, ma mère m'a dit, Sylvain, tu triches. Mais normalement, je triche pas. Elle m'a dit, mais là, Sylvain, t'as relevé ton bandeau, tu vois? Non, je vois pas, maman. Et là, elle a fait le clic, panique à bord, tu sais. Mais tu y penses pas. Quand t'es habitué d'être de même depuis la naissance, tu y penses pas. Mais c'est moi 3D, c'est pas pour moi.
Mais fait que là, qu'est-ce que quand t'as levé puis elle pensait que tu trichais, là en fait, puis elle a vu, ok, ok, qu'est-ce que ça gâche un party, ça? C'est ça commence, yeah, pour Sylvain, oh tabarnak, oh, ça nous a pris 3 ans avant de réaliser qu'il était
comme
tabarnak.
Cadeau cette année-là, j'avais eu le Viewmaster.
Mais fait que là, t'arrêtes l'hiver de novembre à...
Moi, je fais septembre à décembre. Après ça, janvier, février, mars, j'arrête. Avril, je repars.
OK.
Puis après ça,
puis quand,
l'été, je fais des festivals.
Quand tu vas, mettons, au Nouveau-Brunswick, ils sont le fun en esti au Nouveau-Brunswick.
Ils sont très le fun.
C'est beau, en plus. Ils sont fins. Puis sont, mais moi, la dernière fois que j'ai fait un party, il y avait une tempête, un party, un spectacle. J'ai fait un show complètement à l'autre bout. Où Wilfred, c'est où qu'il reste, là?
Caraquette.
Ouais.
Puis, il y a eu une tempête de vent.
Ou ben, là.
Non, mais une tempête de vent, mais, tu sais, c'est une affaire que tu vois jamais ailleurs. On était à l'hôtel, puis là, il nous appelle, puis il dit, bon, là, ça se peut que le show soit reporté à demain, parce qu'on ne sait pas, mais on vous rappelle. Là, il appelle, il dit, là, on a appelé tout le monde, puis là, ça se peut que le show soit à 3 h l'après-midi. Parce que là, tout le monde est pas mal. Écoute, il faisait le tour de tout le public de la salle pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, venez-vous. Finalement, il dit, OK, ben là, non, finalement, à 6 h, 6 h 30, on devrait être bon. Finalement, on a fait le choix à 8 h, mais il appelait tout le monde pour être sûr que tout le monde allait être dans la salle. Écoute, méchant party, toi, t'arrives là, pis tu peux quasiment parler à Gérard. Là, j'aurais pu leur téléphoner, mais c'est vraiment des gens hyper le fun, contents qu'on soit là, premièrement. Pis c'est ça qui est le plus agréable, c'est que ces gens-là, ils apprécient.
La plupart des petites pochette de francophones à travers le Canada qui voient pas souvent des shows des artistes venir. Ouais. Toujours le fun, là.
Ouais.
Ils trippent tout le temps, là. Tu sais, moi, je savais faire un show au Nunavut à un moment donné, en français, puis le monde capotait. C'est toujours le fun d'aller dans ces places-là.
Ouais. C'est où le, ben, t'as joué à Vancouver, en français?
Oui.
T'as-tu déjà joué à Vancouver?
Ouais.
OK. Fait que c'est, j'imagine que c'est ça le plus loin au Canada. Hein?
Au Canada, oui. Le plus loin que j'ai fait, moi, c'est Marrakech, je pense. Mais au Canada, anglais, français, Vancouver.
OK. Puis ça, c'était pour le Marrakech du rire?
Non, c'est un corpo pour Danone.
Ah, ouais? T'es allé faire un jeu pour Danone?
Pour Danone. C'était à Marrakech. C'était en anglais et en français.
OK.
Ça fait qu'ils m'ont envoyé là-bas. Hawaii aussi.
Ouais.
T'as failli y aller à ma
ouais,
place.
Ouais, c'est
là.
Ça. J'ai failli y aller.
Ouais. Fait que ça, c'est des places. Non, Bangkok, en fait, le plus loin. J'ai fait de l'humour.
Ouais, tu viens de faire la série Humour.
Rire du monde.
Rire du monde.
C'est pour TV5. C'est on allait dans différents pays. On voyait 10 humoristes québécois ou humoristes comédiens québécois dans 10 villes différentes du monde pour faire un documentaire d'une heure pour voir ce qui fait rire les gens de ce pays-là. Puis moi, j'étais la semaine passée en Thaïlande.
Pis ça, c'était comment?
C'était écœurant. C'est, et comme je t'expliquais dans l'auto tantôt, je vais le répéter pour les oreilles de nos amis, ben, c'est quand, au Canada et aux États-Unis, l'humour naît souvent de la marde. Tu sais? On est choqué contre notre boss, notre femme, notre gouvernement. On chiale. Puis les taxes, puis on chiale. En Thaïlande, ils font de l'humour pour vivre en harmonie avec la marde qui les entoure. L'approche est complètement différente. Pis c'est vraiment drôle de voir ça. C'est sûrement lié à la mentalité bouddhiste.
Bon, naturellement, là, mais c'était vraiment fun. C'est tout le temps positif.
Tout le temps positif. Puis j'ai été faire un show au Bangkok Comedy Club. Je me suis pété à gueule.
Parce que t'étais agressif?
Ben, parce que moi, j'ai l'attitude nord-américaine. Donc j'arrive là, puis j'étais un peu rough, tu sais, puis...
Il est méchant.
Fait que c'est tout des...
Vie en harmonie.
Des Thaïlandais qui veulent l'harmonie ou des expats qui voulaient un ladyboy.
Et Dieu sait que j'ai plus l'air d'un boy lady que d'un ladyboy.
Ça, il y a le problème... Moi, je suis jamais allé en Thaïlande. Il y en a-tu tant que ça, des ladyboys?
Ben, les Thaïlandais, ils ont tellement des traits... Pas prononcé.
Fin que c'est fin tout que des ladyboys.
Ils ont l'air d'avoir... Ils sont tous à deux drinks, mais nous sommes oh.
Ça doit être plate, ça, quand t'es pas déguisé en femme, puis le monde pense à toi, hey, check, une prostituée.
Ben, moi, notre guide là-bas, il disait, si tu veux savoir si un ladyboy ou pas, regarde la pomme d'Adam. C'est là que tu le sais.
Okay. Ils sont enlevés la pomme d'Adam ou quoi?
Non, parce que la pomme d'Adam, chez des femmes, elle est pas là.
Ah, OK.
Je vais t'expliquer c'est quoi une femme, OK?
Mais un autre truc, c'est regarder son pénis.
Ouais, ça aide.
Ah, un vagin, ouais. C'est possible. Correct.
Le truc, vraiment, c'est qu'il faut que tu goûtes à son pénis. Là, tu sais si t'es un ladyboy ou pas.
Faut que tu goûtes à son pénis.
Bon, on passe à une pause et on va... Non, moi, une place qui m'a vraiment mémorable, c'est en Haïti. J'étais allé dans les années 80. Duvalier était encore là, à ce moment-là.
OK, OK. Ben ouais. Chris, t'es allé dans le
temps que c'était vraiment, là.
Mais j'étais chanter. Imparati,
remarque. Oui, j'étais allé chanter. Puis, je m'en vais là. Puis, la technique est pas tout à fait la même qu'ici. T'sais, ils sont pas tout à fait à jour tout le temps. Fait que j'avais un rendez-vous à 1 h. Le gars est arrivé à 4 h. Puis, c'était dans une école parce que la station de TV avait passé au feu. Je sais pas pourquoi Duvalier était passé par là. En tout cas, finalement,
il était pas super aimé, lui.
Non, il était pas aimé, puis c'était un dictateur. Tu sais, fait que dès que ça faisait pas l'affaire, ça sautait, puis c'était allé en prison. Puis, fait que moi, à un moment donné, j'arrive là, puis il y a une personne qui m'accueille. Puis bonjour, je suis journaliste, et puis bienvenue en Haïti, et puis vous êtes entourné en Haïti à Port-au-Prince, je serai à la salle. Bon, parfait. Fait que là, on s'installe, puis c'est un vieux pupitre d'école, avec un encrier dans le coin, tu sais, en bois, avec un panneau qui lève. On s'assit tous les deux. Il dit, vous êtes prêts? Oui, parfait. Il se lève, il s'en va partir la caméra. Il revient s'asseoir. 5, 4, 3, 2, 1. On fait l'entrevue. Merci beaucoup. Il repart, il va reformer la caméra. C'est lui qui faisait tout.
Pis ça, c'était à la TV.
Ça passait aux nouvelles le soir. Puis
en
une autre
direct.
Fois. Non, mais il fallait que t'envoies ça à censure, puis si la censure l'acceptait, là, tu passes aux nouvelles. Puis une autre fois, j'étais arrivé à une autre station, Puis il est arrivé, puis il y avait des fils Radio Shack qui marchaient pas. Il a passé la moitié de son temps à faire de la soudure. Puis c'était pour un show qui devait avoir lieu à 8 heures. Finalement, il a eu à 11h30 parce que le technicien, il était parti sur une go avec sa gang de chums. Il est arrivé, mais il faisait beau, tu sais, c'est son argument de poids. Tu vois que c'était pas la même affaire. Non, non, c'était vraiment spécial, là. T'es
tout le monde était d'accord. Ah oui, c'est vrai, il faisait beau.
Ah oui, il faisait beau. Puis, fait que tu fais ton show, puis tout est correct, mais au début, tu sais, t'arrives là, tu veux te mordre le front avec les dents d'en haut, tu te dis, on n'arrivera jamais. Ouais, donc, tout allait bien, tout était parfait.
Puis les shows, t'avais-tu fait juste un show ou tu faisais une...
J'avais un, ben je suis retourné 2 ans de fil. Fait que
okay.
Puis non, c'était dans une salle, puis c'était le fun, sauf qu'il était pas équipé. Écoute, le gars, l'après-midi, il fait un test de son, je dis, t'as pas un EQ, quelque chose? Il dit, oh oui, j'en ai un, il part, il était dans son char, il a arraché l'EQ dans son char, puis il est venu me le mettre, puis il a tout branché ça, il était super content, mon gars, puis ils ont fait ce qu'ils ont pu, puis ça a été mais des gens super généreux, mais...
Mais il y avait rien.
Pas broadcast, ben, ben, là, tu sais.
C'est ça.
Moi, j'ai, ben, puis à Haïti, t'es-tu retourné en humour?
Moi,
ou
non? Non, je suis jamais retourné en humour.
T'as-tu fait des shows en France, en humour?
Je suis allé, en Suisse, au festival de Genève.
De Genève?
Ouais, puis on est allé ensemble, d'ailleurs, Genève. À Paris.
Montreux.
Non, pas à Montreux, excuse.
Montreux.
J'étais allé à Montreux.
Ah oui, c'est vrai, on a fait, la Paris fait sa comédie.
Paris fait sa comédie. J'ai allé 2 ans à Montreux, moi.
Puis, mais Montreux, c'est le fun parce que les Suisses nous ressemblent. Moi, en tout cas, ça a été super le fun. Puis, je suis parti de Montreux. L'année d'après, j'étais allé à Paris. J'étais sûr, écoute, mon gars, j'ai dit ça y est, parce que ça avait bien été. Je me suis pété à gueule à Paris la première année. Ça a été
moi,
assez mémorable.
Paris,
et c'est là que les humoristes sont venus me voir et ont dit, ah, ça a bien été, ça a bien été.
Tu faisais-tu un personnage ou
non,
tu faisais
du stand-up?
Okay.
En fait, non, c'était pire que ça parce que j'animais la soirée. Puis c'était au Grand Rex.
Okay.
C'était une maudite salle, écoute, c'est immense.
Non, j'étais chaud là, moi.
C'est ça, je te dis, c'est toi qui es venu me voir et qui m'a fait le bravo, ça a bien été.
Ouais, mais tu sais que je t'aime, moi.
Ben oui, je sais. Mais j'étais pas sûr ce soir-là. Hein. Mm. Mais en tout cas, ça pour dire que j'animais la soirée, mais avant mon gala, à mon corps défendant, il y avait un magicien qui devait faire 5 minutes, puis il a fait une demi-heure. Pis ça se casse une soirée.
Ça, là, c'est la pire affaire. D'un gars-là, là, on est tous supposés faire 7 minutes. Mais il y en a des fois qui vont faire 25 et tout le monde les aille. Parce que ça retarde tout le monde dans le show. Puis tout le monde est en tabarnak.
Ouais.
Ça fait une mauvaise ambiance.
Même quand c'est pas un gars-là. Tu sais, nous autres, ici au bordel, on a un règlement. Tu sais, c'est écrit dans l'loge. À 12 minutes, on allume la lumière. À 15 minutes, tu t'en vas.
La lumière qui est là indique le nombre de temps que l'humoriste peut faire.
Ouais, c'est
quand
ça,
elle s'allume, ça veut dire que ça fait son temps.
Pour ceux qui la lumière rouge, comme là, pendant le podcast, il l'allume pour me dire que ça fait 1 heure que le podcast roule. Mais dans le show, ça vient du côté anglais.
C'est ça. Le Comedy Works, où on a commencé un peu tous les deux, ça arrive déjà, puis ils ont ça. Quand que tu fais ton numéro... Puis quand il flash la lumière une fois, ça veut dire qu'OK, il te reste 30 secondes.
En anglais, de la manière que ça marche, ils vont te demander, mettons, tu fais 15, puis ils te demandent c'est quand tu vas être flashé, puis là, tu le dis. Mais là, ici, vu que ça existait pas vraiment, ce concept-là, on a dit, regarde, à 12, on l'allume, à 15, on flash, fait que débarque avant que ça flash. Fait que
sinon, on part la musique.
Ouais, le règlement, c'est à 12, on t'allume, à 15, on flash, à 17, on te réinvite plus. Mais
non mais
c'est vrai
et c'est correct, c'est normal. C'est normal parce que si tout le monde fait 25-30, le show finit à 1h du matin, le dernier humoriste qui est là, qui est souvent le meilleur de la soirée, personne l'écoute, tout le monde est fatigué,
Moi, je me rappelle quand j'ai commencé en anglais, ça marchait moyen, mais Jimbo m'aimait parce que je respectais mon temps.
Jimbo's Komorowski.
Tu sais, mettons, si j'étais booké pour 12, je débarquais à 11:58.
Ouais.
Puis à chaque fois, il faisait « Chris, que t'es un professionnel! » Mais j'ai tout le temps respecté
mon temps. Alors, c'est sûr. Mais il y en a... Tu sais, on veut pas y nommer, mais je me souviens d'une anecdote avec Michel Barrette, mon bon chum, Michel Barrette. Alors, c'est vraiment un bon chum. Je l'adore, ce gars-là. Mais il a le défaut de pas savoir quand ça commence puis quand ça finit. Puis à un moment donné, on était sur le show d'une levée de fonds pour Jean-Michel Anctil pour les décrochages scolaires à Québec, à salle Albert-Rousseau. Puis on décide, à un moment donné, c'est Michel qui finit parce qu'on sait pas quand est-ce qu'il va arrêter. T'sais. Fait qu'à un moment donné, Michel monte sur scène, effectivement, en dernier. Il commence, il doit faire 10 minutes. Il était rendu à une demi-heure, puis il était encore, puis il s'en rendait pas compte, ça allait bien. Fait que là, maintenant, on se regarde en bas, puis on dit, de la merde, on ferme le show. On passe, fait qu'on s'est tout habillé, on est tous sortis en arrière de lui. Salut Michel, bonsoir tout le monde, tu fermeras les lumières, parfait, merci beaucoup. On est tous sortis par la scène en arrière de lui, en disant crime. Puis il lui a fait encore un autre 10 minutes. Tout a bien été, mais c'est du grand Barrette.
Moi, j'ai travaillé avec Michel Barrette, Philippe Bond, pour le gala qu'animait juste pour rire cet été, OK? J'étais le script éditeur. Et Michel voulait jamais répéter. Il aime pas ça répéter. Il est occupé, il est pas là, il est pas là, il est pas là. Mais on a insisté, moi et Philippe, on l'a fait répéter. Puis le gars-là était en béton, là. C'est vraiment bien. Ouais, ben, il a pas dépassé son temps. Ah, t'étais là, ben oui, ce gars-là, c'est vrai. Il a pas dépassé son temps. Tout a vraiment bien été. Après ça, j'ai dit bravo, Michel, 35 ans carrière pour apprendre que la répétition, ça peut aider. Ben c'est vrai, il a appris ça. Ben, il a jamais, alors, mais... jamais personne n'a osé lui demander de répéter avant non plus. C'est Michel Barrette, tu sais, tu respectes. Tu... Mais là, il... ça a vraiment bien été. Là.
Oh, mais ça... il y avait une fois, je sais pas si c'est toi qui faisais la mise en scène, à Québec, à l'époque, avant que ce soit au Grand Théâtre, c'était au Palais Montcalm. Oh, ouais. Steve Diamond était booké pour faire, on faisait tout 8 ou 10, puis il avait fait 3. Ça, c'est drôle en crise.
C'est
aussi.
Rare.
Ça, là, ça arrive jamais, mais si tu veux surprendre un animateur, Chris, fais 3.
C'est un imitateur chanté, il n'y a pas de tune qui dure en bas de 3 minutes.
Mais ça, j'ai oublié un segment au complet. Tu sais, il est arrivé, il a fait une imitation, il a eu un clap, puis là, il s'est dit, ah, d'habitude, ma clap, je finis avec ma toune. Il a fait un gag, il a fait Ginette Renault, il a crissé son cœur. Je me rappelle plus c'est qui animait.
Je pense que je faisais une mise en scène dans ce temps-là, parce que les
fans... Dans le temps que c'était pas télévisé, ça.
Ouais, mais l'animateur l'avait ramené, puis il avait fait, t'as fait 3 minutes, t'as
très drôle.
Ça, c'est une affaire. C'est ça qui est weird. J'ai eu... Steve Diamond, sûrement, va faire le podcast. J'aimerais ça l'avoir. Mais il y a une affaire, on dirait, surtout notre génération.
Tu m'exclus, là, je suppose, tu regardais mal.
C'est parce que... je sais que Lara qui était de même, puis je sais pas si toi, t'étais de même, mais on haïssait les imitateurs à l'époque.
Et les magiciens, et les mêmes.
On avait un certain... c'était pas un mépris,
il y a une chaîne de mépris dans le show business.
Ouais.
Les comédiens de cinéma rient des comédiens de théâtre, qui rient des comédiens de télé, qui rient des humoristes, qui rient des magiciens, qui rient des mimes, qui rient des singes qui font de la musique avec une roulette, puis... C'est ça.
Mais puis aussi, avant, tu sais, les imitateurs, ça marchait tellement. Ça faisait chier quand tu passais un an et demi à écrire ton number. Puis
tu voulais jamais passer en arrière d'un imitateur.
Quelqu'un faisait Madonna, puis il y avait Standing Ovation.
Ouais. Mais moi, ça m'a tout le temps fait rire que Stéphane Laporte, à l'époque, on l'appelait un auteur d'humour quand les numéros qu'il écrit pour André Philippe, c'est « Fais donc un saxophone. » Tu sais... Chris, c'est pas ça, écrire.
We are the world. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Pas grave.
Non, mais ça, c'est vrai que les imitateurs... Mais le pire, c'est que, à un moment donné, les humoristes étaient en maudit, puis des fois, il y avait raison, tu sais, parce que tu disais, Chris, tu reprends... Tu sais, quand un humoriste reprend un personnage d'un autre humoriste, là, un imitateur, je veux dire, prend un personnage... Tu sais, à un moment donné, il y avait... comment il s'appelle...
Benoît?
Non, le Dominique Lévesque, l'évêque Turcotte.
Lévesque Turcotte, oui.
Il y avait Danny Vervaine. Bon, Danny Vervaine, à un moment donné, il était imité par je dirais pas qui, puis à un moment donné, Danny était en maudit parce que ce Chris-là, il a plus de succès que moi, j'en fais pour vrai, tu sais.
Ouais.
Fait que les gens, ils s'assurent, puis les gens, les humoristes, souvent, ils disaient, ben ouais, mais c'est un hommage. Ben oui, mais ça, c'est un hommage. Fait qu'il imitait, comme Michel Courtemanche, à un moment donné, qui se fait imiter son numéro de drummer. Tu sais, c'était quand même.
Snappy, ça.
Hein?
Snappy.
Drum de Michel,
non, non, non. Me semble Jean-Marie Corbeil faisait le drum pendant un bout de temps.
Je sais pas.
Ben, il a fait Jean-Marie a fait des affaires, mais c'était pas une
tu t'en souviens, Jean-Marie. Le premier gala de Olivier qu'on a monté, là, chaque trophée était remis de façon différente. Tu sais, Mario Jean, il recevait une pizza, puis il regardait dedans, puis il y avait le gagnant.
Oh, ouais.
Mais, il y avait un trophée pour l'imitateur de l'année, cette année-là. Il sortait d'une photocopieuse.
Ah, c'est drôle.
Tu te rappelles? Oh, et oui, c'était Pierre Légaré et Danny Turcotte qui le présentaient.
Ouais, exactement. Non, ça, on avait eu...
Très bonne idée, ça.
Ouais. Ça, c'est une affaire. C'est peut-être pour ça que la deuxième année, ça durait une heure de plus. La première année des Oliviers, ce que j'aimais, c'est que le monde se coalissait.
C'était un anti-gala. Mais,
oui. Le monde faisait... Même, tu sais, on avait reçu... À l'époque, c'était même pas des emails. Là, il me semble nos gérants avaient reçu des fax pour dire « Hey, là, remercie pas ta mère, remercie pas petit Jésus. »
On se prenait pas au sérieux.
Fais des jokes. T'es un humoriste, ouais. Fais des jokes.
Puis le but, c'était de rire de l'industrie aussi, parce que à un moment donné, c'est bien beau de faire des galas pour vendre des tickets, mais le but de l'exercice, moi, je me disais, l'humour, là, c'est pas juste les stand-up, c'est les caricaturistes. J'avais demandé aux caricaturistes... Chapelot, de venir, puis il avait fait un maudit bon number avec ses caricatures. J'avais demandé, tu sais, moi, je voulais donner des prix pour la BD, je voulais aller chercher toutes les sphères, le cinéma, la télé, amenez-en de l'humour.
Oui, au début, c'était juste la scène.
Ben, c'était juste, ben, c'était, non, ben, le premier gala, c'était
un anti-gala. La deuxième année, il c'était encore perçu comme un anti-gala, mais dans les faits, on pouvait pas faire un anti-gala.
Ben, c'est parce que là, l'industrie s'en est mêlée, puis on dit faut vendre des tickets, puis le prix sert à vendre des tickets, puis là, là, ça a tout
fucké. Aussi, ça a commencé quand, je sais pas c'était qui le premier à faire ça, mais aussitôt qu'il y en a un qui a mis sur son sa pub du journal, gagnant de 3 oliviers, 4 oliviers, là, tu viens de donner une importance qu'il n'y avait pas avant.
Oui, c'est sûr.
Alors que le but, au départ, nous autres, c'était ça. C'était vraiment l'idée, on rit de nous autres, on a du fun, puis on se paye la gueule des uns des autres. D'ailleurs, les nominations pour les imitateurs, c'était des têtes d'animaux, les perroquets, des singes, toutes sortes d'affaires. Bon, on se payait à traite en maudit, c'était drôle.
C'est drôle, okay.
Puis il y avait André Martin Matt et André Ducharme ensemble pour présenter un trophée.
Martin
Petit, André Ducharme.
Le podium était juste au-dessus de la tête d'André, puis en bas de la tête de Martin, fait qu'on voyait pas André.
Puis là, il disait, t'as bien qu'à venir au répète, tu sais, André Duchamp, dit, comment c'est que le podium m'arrive là? T'as bien qu'à venir au répète, si on l'a rajusté, c'est tout. Mais c'était le fun parce qu'il y avait bien de l'inside, mais en même temps, c'était drôle pour le public aussi. Puis,
mais c'est ça le défi avec le gars-là de Zelvie quand tu l'écris, c'est qu'il faut que tu fasses rire l'industrie et faut que tu fasses rire le public à la maison. Qui rit pas aux mêmes choses, là. Le double niveau est
d'habitude,
dur.
D'habitude, si tu fais rire l'industrie, le public aimera pas ça. Puis si tu fais rire le public, public,
l'industrie va faire bon.
Les humoristes vont faire encore lisse.
C'est ça le défi.
Mais vous savez, tu sais, comme là, ça va pas super bien aux Oliviers. Puis non mais c'est vrai, ça va pas. Tu sais, cette année, tu sais, tout a été, mettons, un désastre là. Mais
moi, j'ai pas écouté le gala cette année.
Mais ça, mais là, c'est ça que comment que. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ce gala-là pour que ça devienne...
Moi, je pense qu'il faut revenir à l'anti-gala.
Ouais.
Je suis exactement à la même place que toi. Puis je pense aussi, l'autre affaire, qui me préoccupe beaucoup, moi, quand j'ai entendu l'histoire de la censure des polices d'assurance qui voulaient m'amener, dit non, ça, on cautionne pas ça. Ça, pour moi, c'est le pire, parce qu'il n'y en aura pas de procès autour de ça. Si la compagnie d'assurance décide que tu le dis pas, le producteur s'incline, le diffuseur s'incline, tout le monde doit fermer sa gueule, puis ça sera pas diffusé. Et ça, je trouve que c'est une absence totale de jugement d'accepter ça. Parce que je me dis, tu sais, je veux pas embarquer dans ton histoire de procès. Ton procès, c'est une histoire, mais ça, je trouve ça encore pire, parce qu'il n'y aura pas de procès autour de cet événement-là. Et si la compagnie dit, moi, j'assure pas ça, tout le monde ferme sa gueule, puis tout le monde sortir, dit, OK, ben tu te diras pas. Et ça, je trouve ça épouvantable. Et ça, c'est une atteinte à la liberté d'expression.
Non, oui, c'est horrible.
Ça, c'est épouvantable.
Mais ça, par exemple, est-ce possible que ça redevienne un anti-gala ou...
Moi, je pense que c'est les gens de l'industrie puis c'est le CA qui va le décider. Ouais. Si on le décide, à un moment donné, qu'on sait...
Il y a eu des changements dans le CA de la PIU. Il y a eu des changements récemment dans le CA.
Puis là, l'autre affaire qui est dangereuse, c'est que parfois, j'ai l'impression... Moi, j'ai écouté certains galas, puis je veux pas faire de porte... Tu sais, je veux pas faire de jugement, mais j'ai l'impression des fois que faut pas que ça devienne trop... un inside gala, tu sais, un inside joke où tout le monde rit de soi, parce qu'il faut pas oublier aussi qu'actuellement l'industrie a considérablement changé. Moi, quand j'ai commencé dans le métier là, tu faisais une annonce de 2 par 3 dans le journal, tu vendais des tickets. Aujourd'hui, tu mets 2 pages quasiment, faut que tu mettes des millions, ça coûte une fortune. Ouais. La tarte, quand j'ai commencé, il y avait 15 humoristes maximum en circulation, il y en a 65 actuellement. Fait que là, le marché a considérablement changé, les pointes de tarte sont rapetissées et c'est sûr que c'est de plus en plus difficile pour les jeunes de percer le marché. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça a une incidence parce que ceux qui achètent des billets, c'est la génération des boomers souvent qui achètent des billets et l'industrie actuellement présente des jeunes qui sont pas nécessairement connus des boomers, ce qui fait que il y a une grosse partie des billets qui seront, tu sais, qu'il y a comme une absence de communication. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont écouté les Oliviers, puis je crie, mais je connais personne. Tu sais, ben des gens de ma génération, puis ça commence à 50 ans, là, je parle pas de... Tu sais, j'ai 64, mais il y en a une couple de plus jeunes que moi qui disent la même chose, parce que c'est de plus en plus difficile de rejoindre le public parce que la télévision est rendue tellement fuckée qu'on comprend plus rien. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont même plus de télévision. D'ailleurs, moi, mes enfants, ils veulent plus de télévision. Ils ont leur ordi, ils vont chez les émissions qui les intéressent.
T'sais, j'en ai plus de télévision.
C'est con. Ben non, c'est ça. Fait que là, actuellement, le marché est fucké parce que on sait plus comment rejoindre le monde. Tu sais, les journaux, ça marche plus. L'Internet tout seul, ça marche plus. La télévision télévision, la pub à TV, ça marche pas. Fait qu'il faut que tu spread bien large, ça coûte une fortune. Puis actuellement, il y a des grosses remises en question à faire. Fait que moi, l'idée de revenir à la case départ, dire commençons par faire quelque chose pour avoir du fun. Arrêtons de nous prendre au sérieux. Puis arrêtons de péter de la boue en disant que l'industrie, c'est... Moi, le mot industrie culturelle, ça m'a toujours fait suer à quelque part parce que la culture, c'est pas une industrie, c'est pas vrai. Il y a des musées Christie qu'on va pas voir, qui coûtent rien. Il y a plein de places qu'on peut aller voir de la culture, des cinémas parallèles, de plein d'affaires, puis on y va pas. Pourquoi? Parce qu'on se fait coller aux oreilles, on se fait croire que ça coûte 75$, 100$ pour aller au Centre Bell. Hey, Chris, ça doit être bon, on va y aller. Alors qu'il y a plein d'affaires qui sont magistrales, qui sont super intéressantes, qu'on pourrait aller voir pour rien. Et c'est ça, actuellement, le procès de la culture qu'on doit avoir. Comment ça a été intéressant?
Ça a pris, ouais. Ça fait 78 podcasts qu'on fait. C'est la première fois que quelque chose d'intelligent est sorti. Éteint, tabarnak. Hey, je pense, Yann, ça fait combien de temps qu'on est là? 1h10. On va commencer les questions. Je sais pas si s'il y a des gens avec des questions. Le micro, il est en arrière de Yann. Yes, un autre breuvage. Bon, hey, pis si quelqu'un peut poser une question dans les 4 prochaines minutes, ça l'aiderait un peu. Y a-tu quelqu'un qui vient, ou s'il y a personne qui s'en vient, je vais continuer à parler.
Oui, bonjour, une question pour Sylvain.
Oui.
Tantôt, t'as vaguement parlé de humour PQ quand vous avez conclu la série. Vous disiez en refaire une dans 10 ans. Ça fait 10 ans. Est-ce que vous pensez refaire une série humour PQ?
Le producteur qui a produit la série n'existe plus.
Il est-tu mort? Il s'est-tu fait kidnapper?
C'était sur le stade.
OK.
C'était sur le stade à l'époque. Mais ça n'existe plus. Et puis le diffuseur, c'était qui? Non, c'était Canal D, je pense.
Oui, c'est Canal D. Ouais, c'est qui qui avait
les... J'ai pas de nouvelles, en tout cas. Fait que, tu sais, moi.
Mais vu que c'était-tu ton concept ou le concept André ou le mix?
C'est Guy Latraverse qui est venu me parler de ça. Sylvain, j'aurais une idée de faire une série documentaire sur l'histoire de l'humour au Québec. J'aimerais ça que tu l'écrives. Fait que ça, moi, j'écris les 10 épisodes, André animait.
OK, par ça, tu sais, c'est vrai que ça serait une bonne idée, ramener ben, ça.
Ouais, moi, pas André, on a sorti un concept qui s'appelait Télé-PQ.
OK.
Et pour faire, pour voir les différentes phases de l'évolution de la télévision au Québec. Ça aurait été le fun, mais ça n'a pas été accepté comme projet, comme la plupart des projets ne sont jamais acceptés. Mais oui, ce serait le fun d'en faire un deuxième, je pense, parce que ben, tout a changé. Tout a changé depuis qu'on a fait
l'industrie. L'industrie a changé complètement. Puis le discours a changé aussi.
Oui.
Surtout, qu'est-ce qui serait le fun de faire une nouvelle version d'Humour PQ 10 ans après? Surtout là, s'il recommençait à jouer l'Humour PQ d'il y a 10 ans, puis là, on verrait vraiment la différence.
Ça serait écœurant. Ça serait écœurant. C'est vrai, c'est une bonne idée, mais... On n'a pas de nouvelles, donc on n'a pas d'offres, fait qu'on le fait pas. Hein.
Mais les diffuseurs changent beaucoup leur fusil d'épaule aussi depuis plusieurs années parce qu'ils savent plus où se garocher, ils savent plus. Tu sais, t'as vu TVA actuellement, ce qui diffuse.
Mais ils perdent des codes d'écoute à cause de l'internet, fait que tu sais,
à cause des stations parallèles
c'est
aussi.
C'est la panique de la mort de la télévision là. Ouais. Tranquillement. Ouais.
La télé est morte aux États. Au Québec, elle est encore en vie, mais.
Oui, parce que on est un petit village gaulois de francophonie dans une mer d'anglophones. Fait que l'histoire de la culture québécoise, ben la télé est quand même demeurée plus importante.
Oh, ouais.
Puis on est très fidèle à notre télévision dans le sens comme les téléromans, les séries, c'est vrai qu'on aime ça. Puis il y en a des maudites bonnes aussi.
Puis il y a un star system au Québec francophone comparé au Canada anglais. Parce que tu sais, au Canada anglais, là, le meilleur humoriste du Canada anglais, là, peut-être, je sais pas, à mon goût, Derek Edwards, peut-être, se promène dans les rues de Toronto et personne ne le reconnaît. Parce que personne n'écoute la CBC. Personne n'écoute Radio-Canada en anglais parce que elle compétitionne avec les gros réseaux américains. Donc, personne n'est au courant des vedettes canadiennes anglaises.
Mais puis aussi, le Canada anglais encourage pas les autres, les Canadiens, s'ils n'ont pas percé aux États-Unis. Les seuls que le Canada anglais encourage qui n'ont pas percé aux États, c'est le Tragically Hip. C'est les seuls. Puis il y a Pete Johansson un moment donné.
Pete Johansson, ça fait longtemps que j'ai pas. Oh man.
Il a écrit quoi sur Facebook cet été que j'ai trouvé bien hâte. Il essayait d'expliquer. On était à Edinburgh pendant le dernier show de Tragically Hip. Fait que là, on voulait se réunir une gang de Canadiens pour regarder ça ensemble. Finalement, ça n'a pas marché. Fait qu'on,
j'ai eu tellement de peine quand j'ai appris que Gordon Downie avait le cancer du cerveau, là. Ça m'a tellement fait de quoi.
T'as-tu vu le dernier show?
Non, je veux le voir. Pas, il est disponible bon. Où?
C'était, moi, j'aimais ça. Tu sais, d'habitude, Radio-Canada, tu sais, quand t'es à l'extérieur du pays, t'as pas le droit de regarder. Là, c'était, ils l'ont mis pour la planète au complet, pour que les Canadiens partout sur la Terre le voient.
C'est le banc qui m'a fait survivre à travers les 90.
Mais Pete Johansson, il expliquait que quand c'est vrai, si jamais t'as parlé à un Américain de Tragically Hip, est-ce qu'ils comprennent pas? Puis quand ils l'écoutent, ils font, ouais, c'est pas si bon que ça. Mais on dirait, il a dit, on est, il y a des pays qui sont des pays d'underdog, puis il a dit le Canada, c'est un pays d'underdog qui a pas réussi. Il a dit le fait que Tragically Hip ont pas réussi aux États, on les aime encore plus. Puis il disait, notre héros sportif, c'est Terry Fox, un gars qui a essayé de traverser le Canada, puis il est mort dans la troisième province.
C'est vrai pareil.
Dans n'importe quel autre pays, on aurait fait, ah, si on tourne la page, mais là, on est comme, ah, c'est-tu qui était hot?
C'est très vrai.
Ouais.
Et le Québec est comme ça aussi.
Ouais, le Québec est de même un peu.
Ouais.
Mais sauf la différence, par exemple, vois-tu, Pete Johansson, cet été, il était à Édimbourg, puis j'ai demandé, moi, c'est ça que j'aime du Québec. Moi, mes shows à Édimbourg, chaque soir, j'avais au moins un ou deux Québécois, que c'était juste du monde qui était en voyage en Écosse, qu'ils voyaient un panneau avec ma face. Là, ils faisaient, OK, je vais aller voir le show. Il y en a qui comprenaient même pas l'anglais, mais ils se disaient, ah, c'est important d'encourager un Québécois. Puis c'était pas nécessairement des fans tout le temps. Puis j'ai demandé à Pete que Pete Johansson, c'est un excellent humoriste canadien. Il a un special Netflix, une grosse star en Angleterre, grosse star.
Il a commencé à Montréal.
Ouais, ben il avait déménagé.
Moi, je l'ai connu à ses débuts à Montréal.
Il avait déménagé à Montréal vu qu'il se disait Just for Laughs, c'est ici, ça doit être la meilleure place pour faire de l'humour. Puis lui, par exemple, il me disait que tout le long qu'il était à Édimbourg, il n'y a pas eu un Canadien qui est allé le voir. Puis il demandait tout le temps, au début de show, moi, quand j'allais le voir, il demandait, y'a-tu des Canadiens? Il n'y a pas eu un Canadien. Puis il a dit, même quand il va faire, mettons, un show à Winnipeg, là, son agent fait, tu veux-tu faire de la radio? Puis il fait, OK. Puis là, son attaché de presse appelle les postes de radio, puis ils disent tout non. C'est quand même absurde, là. Tu sais, nous autres, si t'arrives à Saint-Georges-de-Beauce, puis tu veux faire de la radio, ils vont te prendre, là, tu sais.
Ouais.
On est, c'est ça. Je trouve que le Québec, on encourage plus nos artistes que le Canada.
Y a-t-il d'autres questions?
D'autres questions, hein?
Okay. Oui.
Hey, pis ça, pour la prochaine, ça serait bon que la personne soit prête au micro. Faut être tight, calice.
Oui, j'ai une question pour les trois, dans le fond. Vous parlez du gala des Oliviers, et je voulais savoir, c'est qui, à part peut-être l'Olivier de l'année que tu as gagné, c'est qui choisit les gagnants?
C'est une question pour le comité. Je suis pas trop au courant. Je sais qu'une partie, c'est les médias.
Est-ce que c'est n'importe quoi?
Une partie, c'est les membres de l'industrie.
Mais c'est vraiment n'importe quoi.
Ouais, c'est un peu n'importe quoi.
Parce que c'est...
Je pense que ma mère est là aussi. Puis mon Golden Retriever.
Mais qu'est-ce qui est... Je sais qu'il y a un comité que ils disent, OK, lui est en première place, lui en deuxième place, lui ou elle ou eux autres en troisième. Puis après, le comité vote, ça compte pour la moitié du vote, mais... Tu sais, mettons, première place donne 3 points, deuxième place 2 points, troisième place 1 point. Fait que c'est tout, ils me l'ont expliqué 4 fois.
Ouais, puis je sais que les diffuseurs sont impliqués là-dedans aussi.
Il y a un comité qui décide qu'un comité va... Il y a un comité pour...
C'est très... Mais ça fait très fonctionnaire.
C'est géré par le gouvernement Couillard, finalement.
Ouais.
Oh. Mais
non, c'est pas évident de savoir. C'est vrai que c'est une infrastructure qui est un petit peu complexe. Puis je sais qu'il y a des pourcentages qui sont alloués. Le vote du public a droit à 10%. Les diffuseurs ont droit à 10%.
Les médias.
Et puis les médias ont droit à 10%. Et il y a un jury qui est formé.
Qui compte pour 50% du vote.
Qui compte, ouais, quelque chose de même. Mais je peux pas vous en dire plus. Sauf les certaines.
C'est le genre d'affaire qu'on chiale contre. On le sait que c'est mal fait. Mais de notre côté, on veut pas savoir comment ça marche. C'est trop plat.
Mais tu sais,
Si on le savait, on gagnerait.
Moi puis Sylvain, par exemple, on avait eu un dîner, ben pas juste nous deux, mais Guy Lévesque, qui est le président.
Il y avait Laurent, François Morancy, Nantel.
Ils nous avaient tous invités pour parler de qu'est-ce qu'on aimait pas puis qu'est-ce qu'il y avait arrangé. Puis on y avait donné plein d'idées. Puis moi le soir des Oliviers, il m'a texté pour me féliciter. Puis là, j'ai juste fait, hey, on devrait refaire le meeting, tu sais. Mais là, cette fois-ci, il faudrait vraiment écouter, là, tu sais. Puis, moi, je pense, un des gros défauts, la personne qui gère les oliviers, tu sais, comme là, c'est un nouveau ou une nouvelle, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais c'est l'ancien boss de la SODEC. Puis, fait que ça prendrait un gars, tu sais, comme un Ghislain Dufresne, qui est un humoriste, mais...
Mais Ghislain est organisé, il est tête. Moi, je vote pour lui demain.
Ça prend quelqu'un du monde, l'humour, là. Tu sais, moi, comme l'autre qu'il y avait avant, je me rappelle pas de son nom, mais c'est lui qui s'occupait de la fête nationale, mais tu sais, c'est pas parce que t'organisais la fête nationale...
C'est pas parce que c'est dans l'événementiel que tu comprends l'humour, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Non, effectivement.
Autre question?
Oui. Yes, Chris, t'es rendu, là.
Ah, mais moi, je te laisse boire, là. As-tu autre question? Non?
Oh, oui. Yes, il y a quelqu'un qui arrive.
Salut.
Good.
Question pour Mike.
Oui.
Ça n'a pas vraiment rapport avec ce que vous avez parlé. Je vais la poser pareil. moi, je voulais savoir ce que tu pensais de l'humoriste George Carlin, parce qu'il me fait beaucoup penser à toi dans ses propos, puis aussi parce que il s'est fait amener en cours. Là.
Ah ouais? Hey, ben,
Je pense que c'est le donne à tout le monde. Hein,
mais merci pour la comparaison, mais moi, je trouve que je ressemble aucunement à George Carlin. Mais
non plus, je comprends pas le lien pantoute.
George Carlin...
Il était politique, Carlin.
Ouais, George Carlin était très, très, très politique. Mais il était... C'est ça, lui il s'était fait amener en cours pour les seven words que... c'était les sept mots que t'as pas le droit de dire à la télé, qui étaient fuck, cock...
Shit, cock...
Pussy
damn...
Motherfucker...
Je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai vu...
Ouais, c'est ça, damn était pas damn, en tout cas... mais moi, Carlin... J'étais très, très triste quand il est mort. Vraiment, triste. Moi, aussitôt qu'un humoriste meurt, je suis tout le temps, ça me crisse tout le temps à temps.
Moi, son monologue sur The Sanctity of Life, c'est un classique. Ça parle de tout ce qui est de droite, de gauche, l'avortement, la peine de mort. C'est un monologue magnifique.
Il y a aussi un bon number qui est ressorti pas mal au début... à chaque fois qu'il y a une élection, sur son affaire de lui, il votait pas. Puis il disait, tu sais, ceux qui disent, si tu votes pas, t'as pas le droit de chialer. Puis là, il explique pourquoi que si tu votes pas, c'est là que tu devrais avoir le droit de chialer. Vu que si t'as voté, Chris, c'est toi qui l'as mis au pouvoir, ferme ta gueule, là, c'est puis c'est vraiment un bon number. Puis il y avait, moi, je suis sa fille. Sa fille a écrit un livre. Puis j'espère qu'elle commence pas à faire de l'humour parce que elle est super drôle, elle est vraiment drôle, elle est super drôle sur Twitter, son livre est drôle, mais si elle commence à faire du stand-up, on va tout le temps automatiquement la comparer à Carlin. Il faudrait qu'elle change de nom, faudrait qu'elle s'appelle, mettons...
Ward.
Ouais, ou ou Cosby, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Y'a-tu clap weird, ça, hein? Y'a-tu une autre question?
Allô. Dans le fond, c'est une question pour Mike. Je voudrais savoir comment s'est passé le concert bénéfice qui était fait en fin de semaine. Je pense que c'était Saint-Julie.
C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Il y avait un show pour un gars qui s'appelle Alex, je sais pas son nom de famille, qui a... Non, mais Chris, je l'ai rencontré une fois. C'est Alexis, c'est quoi son nom de famille? Thibault. Alex Thibault, qui est un gars qui a plongé, puis il est devenu paralysé en plongeant, puis il venait sa blonde à accoucher deux semaines après. Fait que là, il organisait une levée de fonds pour lui, puis je suis allé parce que...
Nice.
Ouais, non, mais tu sais, moi, j'étais là pour les médias, là. Mais non, j'ai eu le pire, là, j'ai eu quelqu'un sur mon Facebook, une madame, tu sais, moi, j'étais pas annoncé sur le show, j'étais pas, tu sais, c'était pas une affaire pour les médias, rien, puis une madame, elle m'a écrit, franchement, ils ont accepté que Ward soit là, moi, je serais allé, mais vu que lui, il était pas là, je donnerais pas mon argent, puis là, j'ai pensé peut-être répondre à madame, juste dire à madame, Chris, ben, si t'allais venir, puis c'est moi qui ai gâché ça, envoie le 25$ que t'aurais payé à famille, esti, puis ferme ta crise de gueule.
Ben oui, carrément, là.
Ouais. Mais j'ai... Mais le monde, est-ce que le monde aime chialer? Moi, ça m'a fait capoter, tu sais, les deux filles en Australie, là, qui sont faites... Le monde, est-ce qu'ils aiment tellement juste pitcher de la marde, puis juste que le monde, tout le monde chiale ses réseaux sociaux, puis pour de vrai, il devrait arrêter les commentaires du Journal de Montréal. C'est vrai. Y a-tu... C'est drôle, ça, que... Mais est-ce que vous lisez les commentaires du Journal de Montréal?
Non. Je lis pas le Journal de Montréal. Fait
OK. Mais puis vos commentaires, mettons, vous autres sur Facebook, les commentaires négatifs, comment vous prenez ça?
Moi, je m'en sers, honnêtement. Mais de toute façon, ça dépend aussi... honnêtement, j'en ai pas beaucoup. Okay. Pas être plate, là.
J'en ai pas tant que ça. Mais non. Je suis moins provocant que toi dans mon
niveau quand même.
Que j'en ai moins. J'ai ni reçu un à un moment donné, une couple de semaines. Là, il change son nom, premièrement. Il dit pas son vrai nom. Fait que tu sais que... OK. Grosse crise de crédibilité. Là. Il est comme... Ouais, dans quel bord tu tiens, est-ce-tu? Va t'arranger le portrait. C'est quoi?
Pourquoi qu'il vous laisse peut-être?
Je ne sais pas. Il dit même pas. Il y a comme 8 fautes d'orthographe par lettre qui écrit. Fait que tu sais que c'est un escargot, c'est Valium, c'est n'importe quoi. Là.
Tu réponds-tu?
Non.
OK.
Non, je réponds pas, oui, on demande.
Non.
Puis tu réponds-tu, est-ce que vous répondez, mettons, à vos les commentaires positifs? Ou c'est juste vous répondez
ben
moi, pas à marde?
Honnêtement, moi, je réponds pas à marde, puis le positif, je remercie. Puis la plupart des gens qui viennent te parler, ils sont gentils, ils sont fins. Oui, là,
exactement.
Mais moi, j'ai eu des affaires plus graves qui me sont arrivées dans la vie de tous les jours. Que sur Internet, là.
Ah, ouais?
Ah, Chris, moi, une fois, écoute, je faisais un show corpo. J'étais avec mes deux techniciens à Sherbrooke. On est sortis d'un bar pour voir la game de hockey après, parce que le show était assez tôt, tu sais. On voulait voir la fin de la game. Là, il y a un douchebag, là, mais tu sais, comme un 6 pieds 4, là. T'es tout gonflé, t-shirt serré, le tatouage qui remonte ici, tu veux raser. Il me pogne par le cou de même. Hey, c'est mon humoriste préféré. C'est quoi mon nom? Je le sais pas, t'es mon humoriste préféré, c'est-tu. Il m'amène au bar, tout ça. Puis il dit, hey, je te présente ma blonde, ma mère, si je te paye un shooter, le gros. Il me paye un shooter, je voulais pas, là, tu sais, mais je le prends, hein, parce que il tient de même. Là,
il t'a-tu lâché le temps que tu vivais? Tu
vivais quand... Il me l'a rentré dans la gueule, là, même. Et là, il commence à, hey, j'ai des jokes pour toi, tu mettras ça dans ton show. Non, j'écris mes jokes, donc tu crées ça dans ton show, le gros aussi. Des jokes de plot, des jokes de menstruation, des jokes de... Là, j'étais plus capable, après 15 minutes, du gars, je vais sortir, fumer une cigarette, là. Puis tantôt, il me laisse partir, je m'en vais dehors. Puis je commence à jaser avec du monde, tu parles à la fun dehors, mais vraiment cool, OK, vraiment cool. Puis ça dure 20 minutes, tout ça, à un moment donné, il sort, toi. Il vient me voir, il fait, hey, tabarnak, je te paye un shooter, tu décalisses. Ben là, on n'est pas mariés, tu vas voir mon esti, t'as pogné de ma fion à niaiser. Il me pogne, il me tasse contre le mur de briques.
Tabarnak!
Ben, tu sais, il est gros. Là. Moi, je suis non-violent dans la vie. Je sais même pas comment me battre, esti. Je tasse sa main, je reviens en dedans, je dis au doorman, je dis là, faut faire de quoi, là? Il est fou, là, il craquait sur quelque chose, je sais pas sur quoi, il était de ses speeds, de sa coke, je sais pas trop. Et là, ils sont mis à trois pour le sortir. C'est un cheval, là, tu sais, là. Il crisse dehors. Là, sa mère et sa blonde...
Sa mère est là! Hein? Sa mère, faut qu'elle sorte. Ah, ben, ça a l'air comme ça.
Sa mère et sa blonde sortent dehors pour le calmer. Ils les frappent tous les deux.
Ah! Ah, oh, tabarnak!
Et c'est la police qui est venue le ramasser.
Asti de tabarnak!
Ben, ça, c'est le genre d'affaire qu'on peut vivre, là. Ça peut arriver, là.
Ah, Chris.
Moi, je me souviens de ma première job à vie, là.
Tabarnak.
Moi, j'étais dans une boîte.
Ben, j'ai eu tellement peur, là.
Ben, Chris, c'est
n'importe. Imagine la mère, le lendemain, il fallait qu'elle explique à ses amis. Pourquoi t'as un œil au beurre noir? Ah, Sylvain Larocque a fait chier Alain. Sylvain Larocque, il est parti après un drink.
Ah, non, mais c'est, ben, parce qu'il y a un phénomène qui arrive. T'as fait de la tournée, toi aussi. Quand, mettons, tu finis ton show en région, t'es dans un bar, whatever, tu vas prendre une bière avec tes techniciens, il y a le phénomène du héros local.
Oh.
Tu sais, tout arrive là, les gens te connaissent, viennent te parler, mais le héros de la place, quand t'es pas là, qui est le gars hot de la place, lui, il te regarde aller pis il est pas content, là. Parce qu'il est pas le héros local ce soir-là, tu comprends? Toi, tu veux rien savoir, tu veux pas déranger personne, mais Chris, c'est pas de ta faute, les gens viennent te parler. Pis ça ira agressif.
Oh, ouais.
Mais t'es arrivé, ça.
Moi, la première job à vie que j'ai pogné, là, premier contrat où t'as une paye, OK? Je faisais des boîtes à chansons, puis à un moment donné, je reçois un téléphone, puis un gars, il disait, écoute, c'était dans le bout de cette île. Puis il dit, on vient d'ouvrir une boîte à chansons, puis j'aimerais ça que tu viennes l'inaugurer, puis le premier cours, ça va être twist. Fait que moi, je dis, ben oui, Il dit, ben, là, ma fille m'a parlé de toi, t'es bon? Oh oui, je pense, monsieur. T'es bon? Oh oui, je vais être OK, parfait. Fait que moi, j'avais pas de char, j'avais 18 ans. Écoute, je pars avec ma guitare, j'embarque dans l'autobus, je me ramasse à cette île. Puis là, il y a un gars qui m'attend, il y a un gros Christy de Cadillac. Puis là, il me voit arriver, puis tabarnak, t'es donc bien petit. Et je dis, ben, ouais, c'est correct. T'es sûr que t'es bon? Oh oui, je suis bon, t'es mieux d'être bon.
Là, il pas de ma guitare. Pensait que la grosseur allait avec...
Écoute, ben, moi, j'étais déjà...
Comme un enfant avec quelqu'un de Noël, je me trouve le plus gros.
Mais là, j'arrive à l'hôtel, puis c'était une boîte à chansons. Moi, tu écoutes, dans ce temps-là, quand tu parlais de boîte à chansons, là, c'était, tu sais, les filets de pêche, les cages aux morts, puis des affaires, tu sais, une vraie boîte à chansons. J'arrive là, puis le bar, ça s'appelait le Contiki Hotel. Je dis, il me semble que ça sonne, tu sais, d'habitude, là, c'était le gars d'Andorre, la butte à Mathieu, le vieux clocher de Magog. Là, t'arrives, là, tu sais, Contiki Hotel.
Ça fait me ça.
Non, ça m'a exactement, mais je rentre dans le hall d'entrée, puis là, il y a un comptoir en bambou avec un gros palmier artificiel. Là, il y a un gros pot avec des bouchons de bière dedans, puis il y a un concours. Devinez combien il y a de bouchons, vous gagnez un casque de skidoo, tu sais. Fait que là, ça fait...
C'est que ça va pas bien.
Alors, mais tout, c'est tout full simili, là. Tu sais, c'est un simili bambou avec un simili palmier. La fille, l'autre bord du bar.
C'était un vrai casque, au moins, que tu gagnais.
Ouais, c'était un vrai casque. Mais la fille, l'autre bord du bar, tu sais, c'était elle qui était à la fois bonsoir, puis qui était waitress, puis tout, puis elle était simili aussi, parce qu'elle était simili en sac. Fait que finalement, Là, j'arrive là, puis la fille, je te présente ma fille, c'est elle qui s'occupe de la boîte de chansons, tu sais, puis moi, je commence à avoir des doutes en tabarnak. Je rentre dans le bar, là, la fille, elle a installé des peintures d'artistes locaux, puis elle a mis des nappes sur les tables avec une petite chandelle, puis elle dit, c'est notre boîte de chansons, tu sais, on fait ça tous les fins de semaine, un soir, mon père m'a permis de partir ça, tout. Là, je m'en vais me coucher, parce que je suis fatigué, puis là, j'ai la chienne, mais je dis, il me semble que je suis pas sûr, tu sais, là, j'arrive le soir, puis là, je vois Skidoo qui arrive, qui se parque devant l'hôtel.
Mauvais signe.
Là, ça va pas bien parce que je dis, Christy, ça, c'est le public d'asseoir. Là, je rentre dans la salle, puis là, le monde, il buvait rien qu'une sorte de boisson, c'était de la grosse, tu sais. C'était, tout le monde avait de la grosse sur la table. Puis, moi, dans ce temps-là, je chantais du Brassens, puis des tunes, tu sais, à texte, puis là, ça va vraiment
les
pas bien.
Les copains d'abord, les copains d'abord.
Là, je monte sur la scène, puis là, je dis, OK, the show must go on. Si moi, lui faire une tune un peu cochonne, c'est « Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son châle. » Le monde est dans la salle, ça marche pas. Je dis, OK, on
ça
continue.
Comme c'est, quand
non,
même
on continue, on lâche pas, on lâche pas. Fait que là, ça, pis là, finalement, je finis par « Quand je pense à Fernande, je bande. » Là, tout le monde se met à crier « Fernande! Fernande! » J'ai dit « Yes, sir! » Là, je les ai eus, calice, je les ai eus. Là, j'arrive à la pause. Là, il y a un gars qui vient me voir, il dit « Hey, viens prendre une bière, viens t'asseoir. » Fait que tu prends une bière? Non, non, merci. Tu prends une bière? Oh, oui, je vais en prendre une. Ouais. Fait que là, il arrive avec une grosse à la table, fait venir le boss. Là, il dit, hey, tabarnak, quand est-ce que tu me colles ça dehors que tu ramènes pas Fernande? Ce que je savais pas, c'est que la semaine d'avant, le bar, c'était un bar de danseuse, pis la vedette s'appelait Fernande. Pis qu'il voulait qu'elle la... Fait que là, ça peut dire, là, mon gars, je suis couché dans mon caisse de guitare, je suis retourné chez nous, pis ça a été fini. Ça a été mon premier contrat à vie. C'est pas de dire une affaire que la boîte de chansons pognait le bar en tabarouette.
Tabarnak. Hey, une danseuse qui s'appelle Fernande.
Pis il y a eu de la catéchèse au cégep. Ça fit.
Hey, mais merci les gars, on va finir ça là-dessus. Merci beaucoup d'avoir fait le podcast. Merci à vous autres. Allez, t'es-tu en tournée présentement?
Je recommence la tournée à partir de vendredi, en fin de semaine. Je me promène partout au Québec.
Ok, puis la meilleure place pour avoir les infos et les dates,
mon
c'est...
site. FrançoisLeveillé.com.
OK. Toi, Sylvain?
Ben, moi, ma tournée est finie, mais là, je suis en train d'écrire un nouveau show. Fait que, voilà.
OK, parfait. Puis t'es assez souvent, quand même, au bordel. Tu rentres.
Ouais, je me promène. Je fais des shows un peu partout, dans les festivals, dans les salles, quand même, là. Ouais.
Yes. SylvainLaRoque.com ou CA?
Oui. Point com.
OK, .com. Excellent. Fait que, ben, merci. Puis, pour ceux qui écoutent en ce moment, à la maison, au gym, ou dans le bain, ou je sais pas, hostie, en parachute, ça se peut, hostie. Yann, restez des nôtres. Yann va vous donner une autre suggestion au podcast. Gros merci à Yann Thériault qui est que personne voit. C'est Monsieur Podcast au Québec. C'est le Pierre-Carl Pelladeau du podcast, ça, c'est lui qui décide tout. On se voit la semaine prochaine. Merci.
Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, si t'es un amateur du Canadien de Montréal, un amateur de hockey, tu vas triper. Si, comme moi, t'es tanné de toujours voir les mêmes 3-4 visages, les mêmes analystes de sport à la radio et à la télé, tu vas triper. Parce que là, je t'amène dans le monde du podcast, là où est-ce que ça parle du Canadien tout autant et avec autant de sens de l'analyse. Il y en a un qui s'appelle « Hors-jeu ». C'est un podcast très simple, c'est quelques gars comme ça qui jasent un peu style vestiaire, qui vont jaser de tout et de rien, de ce qui s'est passé pendant la semaine. Ils vont même faire l'analyse d'analyse. Ils vont parler de ce qui s'est passé et ce qui s'est dit dans les médias, soit à RDS ou à la radio. Il y a un autre podcast qui est bien le fun, qui s'appelle « La soirée du podcast ». C'est une table ronde de discussion sur le Canadien de Montréal. Ils ont des débats. C'est vraiment genre un 110%, mais en mieux, en mille fois mieux, moins coincé. Ils ont toute la liberté du podcast. C'est bien produit, le son est super bon. Tout ça est disponible sur iTunes, tout ça est disponible sur la plateforme RZO et puis aussi sur la plateforme baladoquebec.ca. Si vous voulez entendre le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream et c'est disponible sur le yannterriot.com.